Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah bah nous, on reçoit beaucoup de gens ou de nanas, moi, qui m'écrivent ou qui écrivent à Cédric pour dire « Putain, mais moi, j'aimerais trop avoir ça avec mon mec, mais j'aimerais trop être complice comme ça avec mon mec. » Et moi, je pense que c'est... Je pense sincèrement que c'est impossible, c'est quasiment impossible dans une relation hétérosexuelle normale.
Enfin, amoureuse, tu veux dire?
Amoureuse, c'est possible d'être complice, mais pas comme je le suis avec Cédric. Je pense que nos parents nous regardent souvent sous ce prisme là en disant ouais, c'est con quand même, hein.
Ouais.
Ah oui, c'est vrai.
Quel dommage. Ouais. Ouais. Alors que tu vas dire au gaspillage,
c'est mais... ouais, comme si on gâchait quelque chose. Ouais. Comme si le but ce serait quand même qu'on soit en couple. Mais non. Ah. Parce que c'est toujours un peu le graal d'avoir une relation amoureuse idyllique, parfaite, c'est le but d'une vie, et comme si les gens étaient tristes pour nous qu'on n'aille pas jusque là.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute.
Bonjour. Bonjour Michel. C'est vrai, c'est très à l'ancienne. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la nouvelle prochaine humoriste de votre génération, Madame Sylvie Joly, s'il vous plaît.
Tu dis ça parce que j'ai.
Ça ira très loin.
Tu dis ça parce que j'ai des micro-mains, c'est ça?
Ouais.
Exactement. On dirait un jouet, en fait. C'est hilarant.
Et je vous demande d'accueillir. Monsieur Guibedos.
Parce qu'on peut pas avec le film, mais on pourrait faire un lancer de micro.
Ah, tu peux
faire plein de choses avec
ça. Ah bon, tu peux?
Tu
peux pas. Ouais, tu peux. C'est un peu. C'est très Patrick Sabatier, quoi.
En revanche, il est assez peu sensible, donc si tu parles comme ça, je t'entends vraiment.
Ah, d'accord. Donc voilà. je vais le garder là.
Voilà. Ouais, okay. Tu peux parler comme
attends,
ça, par exemple.
De quoi?
C'est parti là
Ouais, moi j'enregistre, tu sais, je suis comme ça. D'ailleurs, j'étais en train de dire juste avant, mais t'étais pas là, à Cédric, que mon objectif c'est de vous monter l'un contre l'autre. Ouais.
Oula, ça parce va être compliqué ça. oup. Toi, t'as dit que c'était facile, non?
Ah non, j'ai dit que j'avais compris en écoutant tous ces podcasts qu'effectivement c'était le but, c'était de souligner les parts d'ombre de tous ces invités.
Mais moi j'ai déjà eu affaire au phénomène, donc je sais ce que je peux dire ou pas. Je suis désormais une femme verrouillée face à ce podcast. Ça m'a valu des semaines et des mois de
thérapie.
Remords. Pas vrai, pas du tout.
De thérapie. Sortant de...
Un an de travail psychanalytique puis revenu dans un nouveau podcast.
Je boucle la boucle.
Oui, c'est pour. Il faut savoir affronter ces démons. Ouais. Tu vois, pour boucler le truc. Je t'ai dit très bien, Fab, let's go. On va le. Je vais aller le tabasser un peu. J'adore que tu sors. Bon, je suis très heureux de vous avoir. Effectivement, comme tu disais, Laura, on a déjà fait un épisode, toi et moi.
Oui.
Pour raconter ton histoire de succès, n'est-ce pas?
Oui.
Et quand j'ai vu que tu montais sur scène pour mourir, peut-être, comme oui. Dalida, on ne sait pas.
C'est beau.
Est-ce que c'est l'objectif?
Peut-être pas l'objectif, en tout cas pas proche. Hein, mais
c'est une sorte de petite mort artistique.
Oui.
Oh. C'est un lancé dans le vide.
Mais donc vous entendez cette voix.
Réceptionnée pour l'instant.
Il faut quand même savoir, juste pour contextualiser, qu'on a une phase de délire très intense les 40 dernières minutes.
Ah ouais, on s'est tapé des énormes.
Qui consiste juste à dire je dis V, vous dites l'eau, je dis V, vous dites l'eau, je dis V, l'eau, V, l'eau. Et on a fait ça avec tous les mots de la Terre sur le scooter, le City Scoot, et on a eu un fou rire, je pense, hyper dangereux. J'aurais jamais pu. Je sais pas pourquoi j'ai conduit en fait. Parce que Cédric, à un moment donné, il a dit, c'est quoi que t'as dit?
Vous dites article, je dis 2 du code pénal. Vous dites article, vous dites 2 du code pénal.
Article, 2 du code pénal.
Article,
2 du code pénal. Mais c'est tellement nul. Il y a mon attaché presse derrière, Anne-Sophie, qui me regarde en me jugeant, en fait, tout simplement.
Valérie, enfin. Donc ouais, effectivement, Laura, on avait fait ça ensemble, toi et moi.
Ouais. Et quand et plein d'autres choses, non, je rigole.
C'est parti pour les gossips.
Grosse bouffe.
Et en fait, ouais, j'ai vu que tu montais sur scène et j'ai vu qu'en fait, tu avais co-écrit, mais on va en reparler, mais t'as co-écrit spectacle avec Cédric, que j'ai découvert moi par l'intermédiaire de tes stories. Je crois que la première fois que je t'ai vu, où vraiment je me suis dit, quel est ce mec? C'est ce fameux truc où tu sors et tu te pointes dans la chambre et tu ouvres les rideaux qui est devenu cultissime, hein, que t'as fait 43 fois, enfin, c'est devenu...
Ouais, c'était très rigolo, ça m'a un peu dépassé, parce que c'était très rigolo. On s'est beaucoup marré à le faire, en tout cas on était dans une... On est parti dans une maison pour écrire le fameux spectacle et la maison s'y prêtait hyper bien pour jouer à ce
personnage. C'est une idée de moi au départ.
C'était
le duo est très équilibré.
C'est ce qu'elle dit, mais c'est pas vrai.
Et c'est bref. Ça que je veux. C'est exactement. C'est ce mood-là. Continuez. Restez bien là-dessus.
Mais voilà. Et du coup, on en a fait une. Après, on en a fait deux. Puis après trois. Puis après quatre. Puis après cinq. Dans la même
forcé,
journée.
Forcé que tu dis. Je l'ai forcé parce que Cédric, je lui disais non, mais il ouvrait. Donc les rideaux, on avait capté que c'était trop marrant parce que vraiment. Mais enfin, on avait capté. Ça nous faisait rire. Mais
il y a un mood.
On aurait pensé que ce serait aussi marrant pour les gens. Et à, parce que moi, ça me faisait penser à comment il s'appelait ce mec dans Une nounou d'enfer là.
Ouais. Alors non.
Nigel, je sais plus comment il s'appelait.
Nigel, mais pas du tout.
Il avait ce truc un peu de, tu sais, de maître de maison, un peu pédant et en fait un peu horrible, mais alors que c'est l'employé de la maison et tout. Et après, je disais, vas-y, fais-le avec, fais-le avec un chandelier, un truc comme ça.
Il y avait tellement de.
Et lui, il disait, mais je sais pas si ça va être drôle, quoi. Et après, maintenant, tu le fais avec. Crois à fond, mais en fait.
Dans cette maison, on avait tellement d'opportunités de faire des choses marrantes. Donc on a réussi à en faire plein. Et après, ouais, effectivement, je me suis dit, bon, je vais en refaire une pour voir. Mais genre, 3 mois, 4 mois après.
Ah oui, c'est vrai.
Et je sais plus laquelle. Et puis, j'en ai pas fait beaucoup en tout. Mais c'est rigolo. Tous les 3-4 mois, j'en poste une. C'est assez marrant. À faire. En tout cas, c'est très rigolo.
Et donc, c'est Laura qui te poussait à faire tes conneries. Enfin, en tout cas, elle m'encourageait à les filmer.
Ah, bah, parce que c'était aussi parce que c'était la Saint-Jean-Guille.
Ah oui, la Saint-Jean-Guille dans la flamme.
Dans la flamme.
Ouais, dans la flamme. Et c'était le jour où on mettait en résidence.
Ouais. Voilà. Non, donc, exactement.
Alors, si vous n'avez pas la ref, il faut regarder
cette
série qui s'appelle La Flamme avec Jonathan Cohen.
La Flamme.
C'est notre façon de citer cette série.
Vous avez des trucs comme ça, plein de gimmicks.
Peut-être.
Je pense que ça va être très pénible. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour toi.
En plus, on parle en même temps, du coup, c'est très pratique pour. Ouais.
Non, mais c'est pas grave.
Pour écouter.
Ne sonne qu'une et même seule piste.
Une piste son pour tout le monde, quoi, finalement, c'est pour réunir tout le monde. Donc, oui, Cédric, effectivement, oui. Juste pour resituer un petit peu avant qu'on parle de votre duo, mais la question que j'ai déjà posée à Laura, je vous invite à aller écouter cet épisode qui était super, voilà, où on a raconté ton enfance au fin fond de la France. Toi, tu viens d'où en fait? La question que je pose à tout le monde, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans? Ouais. Est-ce que tu peux le faire? Can you do
Alors
it?
Moi, je veux juste savoir, est-ce que je dois me décrire physiquement ou en tant que personne?
Les gens décident. Okay. C'est toi qui... Up to you.
Donc, à quoi je ressemblais
up
quand j'étais
enfant?
Up to
you, en anglais, ça veut dire c'est toi qui décides. Pardon, parce que comme il t'a parlé en anglais, okay, je préfère...
D'accord.
Let's go. C'est-à-dire, c'est parti.
Eh bien, enfant, je pense que j'étais à peu près comme maintenant, parce que je pense que je suis toujours un enfant. je pense que j'étais un peu toujours très joyeux, toujours à rigoler, à faire des blagues, à faire un peu des conneries. J'étais un peu le clown de la famille. Putain, je déteste les gens qui disent ça, mais c'est vrai, j'étais le clown de ma famille. Vraiment, c'est comme ça que mes parents m'ont catalogué très vite. Parce que j'ai 3 frères, donc on est une famille de nombreuses, enfin on est 6 en tout. Et du coup, on a toujours eu du monde à la maison, bref. Et voilà.
T'étais situé où?
Moi, je suis le 3e.
Ok. Au milieu.
Voilà, on peut dire un peu ça comme ça, et on n'est pas très éloigné en termes d'âge, donc on était tous un peu tout le temps ensemble, les quatre, et non, puis même à l'école, je m'amusais à faire des sketchs en primaire, donc bref, toujours, dans la déconne, un peu dans la déconne, voilà.
Mais tu t'es dit que faire marrer, c'était une façon comme une autre de sortir du lot, c'est ça, dans cette famille nombreuse, ou? Non, mais moi, je suis ici pour les questions deep, hein, je te promets.
Ouais, écoute, on y va, je la réceptionne et je te réponds en te disant. que c'est peut-être vrai ce que tu me dis là, mais que je l'ai pas conscientisé. En tout cas, je sais que pour Laura c'est le cas, parce que c'est comme ça qu'elle explique son rapport à l'humour.
Excuse-moi, je vais te demander de ne pas prendre la parole. Tu vas pouvoir t'exprimer par rapport à tes besoins, etc.
Bien sûr,
mais juste par rapport au mien,
non, mais je me sers de toi comme un outil de comparaison. Et je vais reprendre
la parole. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais vas-y, ok.
Non, mais en tout cas. En tout cas, c'est peut-être un moyen que j'ai trouvé. Oui, c'est peut-être un moyen que j'ai trouvé pour essayer d'exister parce que je me sentais un peu différent de du reste du monde.
Si peu d'ego. Personne ne me ressemble à jamais.
Non,
je
mais
me disais, mon Dieu, elles n'ont pas assez de talent pour moi.
Mais bon, je ressemblais pas, je pense, au petit garçon classique, quoi, de l'époque, on va dire, de ce qu'on attendait d'un petit garçon à cette époque-là. Je n'aimais pas trop le foot, je jouais pas trop avec les garçons à l'école.
Ah oui, tes frères, ils avaient dit une anecdote plus... non, sur le foot quand on était chez toi. Je crois qu'ils avaient dit que tu servais que
non.
Le foot et que tu servais à faire un poteau, non?
Non, c'est aussi, bah, en tout cas, il y a aussi une autre anecdote, c'est qu'avec mes frères, on jouait chez moi, on a une espèce de cour et tout, et eux, ils faisaient du VTT, et moi j'adorais jouer au feu rouge. Donc moi je faisais le feu rouge, et en fait je me mettais devant eux et je leur disais non, tu peux pas y aller, c'est feu rouge. Et après c'est bon, c'est feu vert. Et voilà. Donc tu vois un peu le genre d'enfant que je pouvais être, dissonant complètement de mes trois autres frères. Mais bon, c'est quand même très bien entendu, c'était très cool. Mais voilà.
Il faut que chacun ait un rôle, hein, finalement.
Oui, voilà.
Ah, c'est vrai, tiens. Et quel rôle ils ont, tes autres frères, c'est vrai.
Puis je ne sais pas, il faudrait leur poser la question.
C'est vrai, je vais réfléchir à ça plus longuement, mais on va pas étaler leur vie ici. Mais ouais. Et tout de suite, Guy Bedos pour son super sketch.
Mais qu'est-ce que
la femme de ménage.
Qu'est-ce que t'as avec Guy Bedos?
C'est
ça
les
fait
micros,
deux fois.
C'est les micros, on annonce les nouveaux humoristes sur les plateaux. Toute nouvelle chanteuse, Dalida, qui fait son apparition dans le monde de la musique. C'est vraiment ça.
Mais non, mais les mecs qui font du stand-up, ils ont des micros avec des fils, non?
Non, mais ils ont pas des micros avec des bonnets avec rouges et noirs.
Ah oui, enfin, d'accord.
C'est vraiment...
Alors, ça fait très journaliste aussi.
Oui, oui, ah, effectivement, oui. Je suis
en direct de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, où s'apprête à atterrir au jour du même l'avion présidentiel.
De Donald, de Trump. Ils sont tout le temps comme ça.
C'est tout le temps comme ça?
Ça ou...
Entre vous,
franchement,
ça ne s'arrête jamais en fait. Est-ce que parfois vous discutez
mais
sérieux?
C'est suivi par de longues phases de genre rien, genre où vraiment on s'arrête et on
vous
est
parlez
trop,
pas.
Où on parle pas. Non, des fois on Attends. Est. Non mais ah, oui. Ça se suit par des phrases d'euthanasie totale où on est genre.
D'euthanasie.
de pas d'euthanasie, mais de. C'est une neurasthénie, c'est ça le mot, je crois. On se met des shots de cyanure et on canne assez régulièrement à côté de l'autre, quoi.
Est-ce que vous parlez sérieusement parfois?
Oui, ah oui, beaucoup.
Oui, 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 quand même.
Non, okay. On est des petites pipelettes, hein, tu sais. Franchement, c'est assis.
Si tu nous voyais quand on est en train de se maquiller avant de monter sur scène.
Et en bleu, pire, c'est que, en fait, je pense que le pire truc qu'on a en commun, mais en même temps, le meilleur truc, mais qui, du coup, quand on est en interaction avec d'autres gens, c'est vraiment chiant, c'est que nous, on adore raconter des histoires. Mais des histoires pour nous, par exemple, quand le plombier il est venu et qu'il a changé genre un joint de culasse, et ben en fait, nous, on aime
un
trop...
Un joint de culasse non.
Sur les bagnoles, ça, putain, Lolo.
Là, par exemple, il y avait un mec qui a changé les prises chez moi, et je sais que je peux raconter à Cédric que ça m'a trop énervé, comment il a posé le boîtier, et qu'après, genre, c'était... Je lui raconte tout, et en fait, lui, je sais que ça le fait pas chier, et lui, il va me raconter des trucs tout aussi chiants. Et les problèmes, c'est qu'en fait, en vrai, ça fait chier les autres, je pense, quand on raconte des trucs comme ça.
Ouais.
Enfin, moi, je voyais voir mon mec, il a aucune patience pour ça. Je commence à lui dire, ouais, le mec des prises. Fiu, il est bien la pièce. Donc, je fais, ok.
Mais donc, est-ce que tu te sens obligé d'écouter? Est-ce que vous vous sentez obligé de vous écouter l'un l'autre? Ou alors, c'est vraiment pour raconter même
non,
le
non,
quotidien?
Non, franchement,
non. On s'écoute pas du tout.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Des fois, on s'écoute pas. Mais on arrive à assez comprendre. Des fois, je lui parle et je vois très bien qu'elle m'écoute pas. Et je me dis, bon, c'est pas grave. M'écoute pas.
Tu continues à parler.
Non, je m'arrête. Je me dis, je leur parlerai quand elle sera là, ouais. Ou quand elle m'écoutera. C'est pas grave. Mais c'est
comme
vrai
ça. Que moi, je fais vachement des phases de téléphone avec toi. Parce que je suis hyper à l'aise. Donc, je suis en mode, je te parle et d'un coup, je bloque ouais. Tout parce que je réponds SMS. Faut que j'arrête de faire ça. J'ai
des phases de téléphone, ça veut dire quoi?
Oui,
bah, en fait, je suis appelée par mon écran, je réponds un texto. Ah. Et ouais, parce que je suis tellement avec lui. Qu'en fait, si je ne prends pas mon téléphone quand je suis avec Cédric, je ne prends pas mon téléphone dans ma vie, quoi, puisque je suis tout le temps avec Cédric.
Alors moi, je ne prends pas mon téléphone quand je suis avec toi, et du coup, je n'ai aucune vie sociale en dehors de la nôtre.
Non, mais après, c'est plus des sollicitations extérieures et des trucs un peu chiants, mais.
Mais ça arrive pas.
Ouais,
mais...
des podcasts.
Et moi, j'ai pas. Non, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai pas du tout ces trucs un peu incroyables dans la vie des gens qui arrivent à organiser tout, en fait. Moi, je trouve que les portables, c'est un peu horrible pour ça, mais t'es joignable de 8h à 1h du matin, et parfois, Enfin, moi, j'arrive pas à couper dans. Tu vois.
T'arrives pas à couper?
Non, j'arrive pas du tout à couper. En fait, pour le truc des tafs, il y a plus de lundi,
parce qu'il y a pas
de dimanche,
bah
de
oui,
jeudi. Enfin, tu vois, pour moi, tout est. Ouais. Et quand je rentre, c'est dur parce que parfois, bah, on doit s'écrire avec Anso pour se dire demain on fait ça à telle heure et en fait, le journaliste n'a pas encore répondu ou des trucs comme ça. Donc on est obligé, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, pardon, c'est une digression.
En tout cas, des fois, on ne s'écoute pas et c'est pas grave.
Ouais.
Voilà.
D'ailleurs, là, je t'écoute pas, par exemple. J'ai pas du, ah ouais, j'ai pas du tout ce que t'as raconté là.
Okay. Non, rien, c'est pas grave, t'inquiète.
Comment vous êtes rencontrés?
Alors, vas-y. Non, j'avais pas une blague, mais j'ai pas envie. Quoi. Je devenais faire un essai dans une formation, une sorte d'école de doublage, on appelait ça comme ça à l'époque, où tu venais, en gros, je venais faire un essai dans une classe, et Cédric était dans cette classe-là, et genre le premier jour où je suis arrivée, il était là, moi je venais fraîchement de ma province mulhousienne et lui de sa province bretonne, et en fait, je sais pas, on s'est parlé à la pause au bar là, en hauteur, ouais. Là, on s'est assis sur les tabourets en hauteur, on a rigolé, et je sais pas, en fait, on s'est plus jamais quitté quoi.
Et après tu as intégré l'école.
Oui, j'ai intégré l'école, mais on n'était pas dans la même classe.
Ouais, mais on se retrouvait toutes
les pauses, on se retrouvait et tout. C'était trop bien, en fait, quand j'y pense. Ouais. Et en vrai, franchement, on rigolait trop, quoi. Ouais. Mais en fait, on s'est jamais dit, on va être des super bestas et tout. C'est juste que vraiment, ça s'est fait parce qu'il y a des années où on s'est pas beaucoup vus.
Ouais, parce
comment t'as vécu le truc, toi, Cédric? Maintenant que nous avons
moi, c'est marrant.
Moi, je l'ai vu débarquer, je l'ai détesté tout de suite.
Juste, ouais, c'est ça.
Je tiens à établir la vérité, j'ai pas du tout vécu cette expérience. Ouais. Je suis désolé de te le dire maintenant comme ça, mais.
On dirait les amours un peu, tu sais.
Ouais,
un test d'amitié. Non, mais pareil, je me rappelle l'avoir vu en cours et je me rappelle surtout de cette première pause où on s'est assis et on a discuté au bar et je sais pas, on s'est fait des blagues tout de suite et on a trop rigolé. Et après, je me rappelle qu'on était tout le temps ensemble avec d'autres potes qu'on s'est fait aussi là-bas, mais on se retrouve tout le temps aux pauses, midi ou l'après-midi et tout, et on passait tout notre temps ensemble. Et puis après, voilà, on a commencé à se voir un peu plus en dehors, traîner chez les uns, chez les autres. Et après, effectivement, on s'est peut-être un peu moins vus. Moi, je sais que j'ai déménagé. Alors ça, on était dans Paris. Moi, je sais que j'ai quitté Paris pour aller un peu plus loin, en banlieue.
Là, on s'est moins vus. Est-ce que tu peux dire le nom de la ville et on pourrait peut-être mettre au montage une musique très triste? Tu es allé vivre à...
J'ai été vivre à Alfortville. Je pense pas que les gens s'attendaient à cette ville parce qu'en vrai, elle est pas si nulle.
Parce que ton appartement, ils avaient choisi un appartement en coloc qui était penché. Donc c'est-à-dire que la vie était tout le temps.
Ouais.
Si tu faisais tomber quelque chose dans le salon, ça roulait.
Ça roulait jusqu'au bout de
l'appartement.
On a découvert des morceaux de crayons de couleur en haut, dans les coins des murs. Tu dis, mais où quelqu'un, comment c'est possible? On a retrouvé des touffes de cheveux partout, entre les lattes des parquets. Donc on a fait un petit ravalement de l'appart avant d'y aller. Et puis ça n'a rien changé, l'énergie n'était pas là, rien ne se passait dans cet appart, c'était vraiment très dur.
L'appart penché, faut pas avoir des roulettes, quoi, tu vois.
Non,
faut avoir envie d'aller vraiment dans la même direction tout le temps. Faut être handicapé, avoir envie d'aller toujours vers la fenêtre.
Et après, par contre, cette année-là, où j'ai décidé de ne plus jamais rester dans là où j'étais, je suis retourné vivre à Paris. Et là, on s'est retrouvés pour une nouvelle formation. Et on a fait une formation d'acting, de comédien.
Une école de théâtre.
Une école de théâtre.
Ouais. Vous vous êtes dit tous les deux, ok, on va on va la faire ensemble.
On avait un copain qui avait déjà fait ça une année avant nous. Et on ne connaissait pas beaucoup d'écoles. Et on s'est dit qu'on voulait faire une école parce qu'on avait bien compris que... Le doublage, en fait, c'était quand même ça nécessitait de jouer, quoi. Et qu'en fait, ça nous intéressait quand même le travail de comédien plus que celui de la voix, même si on adorait le travail de la voix. Mais je veux dire, on a compris que c'était lié, quoi.
Ouais.
Et donc, on s'est dit qu'on allait faire cette formation. Et comme on avait tous les deux la chance d'avoir des parents et des gens qui nous soutenaient autour, on a pu aller faire des formations et on nous payait notre appart. Enfin, tu vois, c'était quand même... je pense qu'on a quand même eu vachement de chance pour ça, parce qu'au final, c'était quand même 3 ou 4 ans d'école.
4, on en a fait
4 ans d'école, donc tu vois, 4 ans où tes parents ils subviennent à tes besoins à Paris, c'est quand même énorme, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et là, on a habité successivement à 200 ou 300 mètres à chaque fois.
Ah ouais, vous
pendant
étiez...
plusieurs
oui, c'était au hasard, mais on s'est vraiment suivis, même au niveau de nos logements. Ce qui fait que
tu te rappelles que le matin, on s'attendait devant la boulangerie pour aller en cours ensemble.
Ouais, ouais.
Je viens de m'en rappeler.
On se disait, on se retrouve à l'angle, allez. Ouais. Et après, on allait en cours ensemble. Mais ce qui fait que ça a été très difficile quand Laura a décidé de quitter Paris pour Montreuil. J'ai très mal vécu. D'abord Montreuil, Robespierre.
Non, d'abord
ensuite,
t'es allé beaucoup plus loin. Quincampoix d'abord.
Ah, c'est vrai, t'as vécu à Quincampoix.
D'abord,
j'ai
vécu rue Quincampoix, ouais. Dans 190 mètres carrés, et après, j'ai compris. J'avais un espèce de plan de fou furieux.
Truc à trois étages.
Ouais, truc à trois étages, avec 10 mètres de plafond sous hauteur, là.
Oui, Quincampoix, pour les gens qui savent pas, c'est en plein centre de Paris.
C'est en plein centre de Paris. C'est pas forcément sexy quand on y pense, mais l'appart était vraiment fou. Et en fait, c'était un mec qui nous soulouait avec mon gars à moi. Et du coup, quand mon gars à moi,
j'ai
même pas relevé.
Patricia Casse, ouais. Avec mon gars à moi, Et donc, bref, tout ça pour dire qu'après, je suis sortie de Paris. Oh, c'est chiant ce que je raconte. Tu vois, là,
en tout cas,
parce que toi, je raconte
ça. On revient
au
sujet qui était de, effectivement, on s'est suivi.
On s'est suivi.
Et on a fait les cours ensemble.
Merci, Cédric, de reboucler. Hein. Il est là pour.
Pas de soucis, je suis là
pour faire le suivi de l'interview.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
À quel moment vous êtes dit, tiens, en fait, ça serait marrant qu'on puisse bosser ensemble?
Je sais pas si c'est...
Parce que là, ça fait 10 ans que vous connaissez, c'est ça,
ouais,
aujourd'hui, là?
Ouais, ouais.
Ok.
C'est pas venu tout de suite après l'école, parce qu'on a arrêté l'école, je crois, si je me trompe pas, en 2017.
Ouais.
C'est pas arrivé tout de suite. Toi, je sais que t'as fait partie de Golden Moustache.
Ouais.
Avec une copine où t'as fait pas mal de trucs avec elle, avec Anna. Et moi, j'étais ailleurs. Et
toi, en fait, elle t'a laissé tomber, quoi. Elle t'a laissé sur le carreau. Regarde,
ouais,
t'as vu comme j'essaie de...
Tombée,
non, mais tu vois, ça, c'est un vrai truc. C'est qu'en fait, je pense qu'on a toujours imaginé qu'on bosserait ensemble sans se le dire. C'était évident pour nous. Et en fait, mais même après, on y reviendra pour le truc du spectacle. Mais c'était même pas une question pour moi, en fait. Et le truc, c'est que Anna, on a tenté un petit truc de court-métrage. Mais...
Donc Anna Apter.
Anna Apter, oui, pardon. Et du coup... On avait tenté l'aventure de faire un petit truc de court-métrage, mais vraiment, en fait, à l'époque, ce court-métrage, c'était genre d'une série de Snapchat qui avait été collée avec une voix off, et du coup, ça avait duré une mini après-midi, il n'y avait jamais vraiment eu de collaboration, en fait. Donc, on a été propulsés quand même dans un truc de travail à deux, et on parlait tout à l'heure des ruptures professionnelles et tout, qui nous a un peu mené à ça, parce qu'en fait, on n'avait pas du tout décidé ça, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait quand même ce truc qui était moins évident en termes de duo, de travail et d'énergie pour nous deux. Et pourtant, franchement, je pense qu'on s'adore et qu'on respecte mutuellement tout le travail l'une et de l'autre, quoi, vraiment.
L'une de l'autre.
Mais on n'avait pas du tout les mêmes manières de travailler. Donc c'est intéressant parce que moi, j'avais pas du tout pensé bosser avec elle, par exemple, à l'époque. C'était même pas un truc que j'avais envisagé. Et du coup, c'était un peu étrange quand pendant ces années-là, je bossais pas avec Cédric, en fait. Parce que là, c'était plus évident pour moi, alors qu'on bossait même pas ensemble, tu vois.
Et vous continuez à vous voir régulièrement,
oui,
c'est
oui,
ça
tout le temps. Oui, oui, ouais, ouais.
Ok.
Ouais,
ouais. Ouais. Et puis, à cette période-là, ouais, tout le temps.
Et puis après, en fait, c'est elle qui est venue vers moi pour quand elle a eu l'opportunité de passer un essai pour quand elle a eu l'opportunité de passer un essai pour Quotidien, elle m'a demandé si je voulais écrire avec elle et du coup rentrer dans l'aventure. Et je suis rentré dans l'aventure et depuis. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à travailler ensemble. Après, on avait peut-être écrit des petits trucs. On avait commencé, tu te rappelles, quand t'étais à Montreuil, on avait commencé à écrire là des...
Non, déjà, il m'avait suivi quand même sur le pilote et tout, parce que c'était quand même un pilote qu'on avait fait le truc de Quotidien.
Ouais.
Donc, t'étais toujours un petit peu, dès que je mettais en place un petit projet ou quoi, j'en parlais tout le temps et t'étais tout le temps hyper réactif et t'avais toujours envie d'en faire partie, quoi.
Mais et vous êtes dit à un moment donné, ok, on a envie de bosser ensemble.
Non, c'est marrant ça.
Oui, mais
non,
en fait, parce que je suis toujours assez intrigué de la façon dont naissent les collaborations, tu sais, où tu finis par comme une relation amoureuse d'ailleurs, hein,
collaboration, elle met tellement du fait que je sais pas comment dire, mais franchement, je pense que j'aurais pas le choix de traîner avec toi parce que t'es vraiment trop marrant, quoi. Enfin, non mais tu sais, je me dis tout le temps, mais en fait, on mesure la chance et tout machin, mais en fait, à l'instant, je pense qu'il y a plein de gens pour qui ça se passe comme ça aussi amoureusement, qui trouvent des évidences et tout. En tout cas, dans les premières années, après, au bout de 10 ans, ils sont là, c'est plus très évident, mais ils vivent,
Il faut cultiver l'évidence.
Non, mais c'est-à-dire que dans un couple, c'est complètement différent, tu vois, dans une histoire d'amitié, il y a vraiment, enfin, Cédric et moi, pendant 3 mois, on peut ne pas se parler si on est en vacances.
Ah, mais je trouve que justement, il y a un truc qu'on nous dit pas quand on est jeune, c'est qu'en fait, les relations d'amitié, il faut les nourrir aussi.
Et
qu'on...
je pense qu'on est vraiment... On les nourrit d'une manière, c'est vrai qu'on a exactement les... C'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer, parfois dans un couple,
on cherche
un petit peu
ton
opposé aussi. Et nous, j'ai l'impression qu'on est vraiment pareil sur des trucs de... à la fois, on a le bon équilibre de... C'est vrai que je vais un peu plus driver les projets, être à l'avant du truc. Toi, t'es pas du tout quelqu'un qui a besoin toujours de dire « Laisse-moi aller devant, laisse-moi aller devant » et tout. Ce qui, moi, quelque part, dans mon inconscient, doit aussi m'aller, tu vois,
je pense. Oui.
Mais du coup, il y a un truc qui est très sain. Et aussi, on reparle souvent de cette position. Je lui dis tout le temps « Est-ce que t'es OK avec ça ?» Est-ce que ça te fait pas trop chier que, par exemple,
duo non plus sur scène. Il y a vraiment un équilibre... qu'on a trouvé ensemble parce que il y avait les places, on ne voulait pas exactement les mêmes places. Nous, ce qu'on voulait, c'était juste travailler ensemble. Et après, on a questionné
Et puis j'étais aussi produite par un producteur, oui. Moi. Donc c'était aussi un peu compliqué de dire d'un coup, j'arrivais en duo, ce qui sera peut-être plus facile dans un second temps de dire, ben voilà, on a co-écrit quelque chose à deux, on a envie de le jouer à deux.
Tu veux dire que t'étais d'abord produite?
Oui, moi, c'est-à-dire que moi, si tu veux, quand on m'a cherché après Quotidien, tout ça, c'était Laura Felpin qui voulait, oui. C'était pas forcément Cédric Salin. Mais en fait, là où ils ont été très malins et où ils ont compris, c'est que Laura Felpin, c'est Cédric Salin, tu vois. Non, mais c'est là, parce qu'en fait, même à Quotidien, j'aurais jamais bossé sans Cédric, tu vois, c'était pas possible. Et puis, voilà, donc on s'est jamais posé en se disant qu'on allait bosser ensemble.
En tout cas, ouais, voilà, ça s'est fait naturellement.
Et toi, de ton côté, Cédric, tu...
Quand, en fait, quand... visiblement.
Un petit road PDG. Attends, excusez-moi. Oula.
Le fameux truc de... Ouais, c'est horrible, pardon. Pardon pour les gens qui...
Ouais, tu l'as super bien fait, ouais, en plus, là.
Je le maîtrise. En fait, quand Laura vient te voir pour bosser sur de l'écriture, est-ce que c'est un truc que tu as déjà fait dans ta vie? Parce qu'en fait, jusque-là, vous êtes rencontrés pour jouer, pour... Mais c'est pas du tout le même truc que d'écrire.
Ouais, non, pas du tout. Quand elle...
Ah si, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais quoi? Parce qu'on avait écrit un truc, excuse-moi, il faut que tu le dises.
La petite pièce.
Mais on avait commencé à écrire une petite pièce, hyper marrante.
Ouais, ouais, et là
on avait quand même écrit ensemble, là.
Et donc, on avait fait une scène ouverte. On avait...
Et puis oui, tu faisais partie des vidéos et tout, donc il y avait quand même un truc de... Pardon, vas-y.
Mais en tout cas, quand elle m'a proposé...
Qu'est-ce que tu penses, Cédric, du fait qu'elle te coupe sans arrêt?
Oh, je dis rien, je la laisse juger exactement ses attitudes. Je pense qu'elle en tirera une leçon.
Oui, pardon, je me remets en question.
Non, mais oui, cette activité d'auteur, quand elle me l'a proposée, parce que pour Quotidien et pour le spectacle, ou en tout cas d'abord pour Quotidien, c'était vraiment très clair, c'est elle qui a l'antenne. Et de toute façon, moi, je voulais pas à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que je me suis vachement questionné sur waouh, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que j'ai envie d'être dans ce rapport-là au texte, un truc un peu. Comment dire? Bureau, écrire plein de choses, écrire, sélectionner, trouver. Et j'ai vachement cogité là-dessus. Et puis en fait, ça c'est un peu, j'ai un peu désacralisé la tâche puisque j'ai accepté de le faire parce qu'en fait on travaillait pas comme ça finalement avec Laura. Je me suis rendu compte qu'un métier d'auteur qui pouvait m'angoisser quand je l'imaginais dans un bureau derrière un ordinateur à devoir fournir plein de choses, être un peu une machine.
Une machine, quoi.
Moi je me disais, mais je suis pas capable de ça. Mais en fait, nous on a trouvé notre façon de travailler qui était différente de celle-là. Qui était plus un espèce de ping-pong, un échange, on improvise, on joue, on réfléchit ensemble, et de ces impros, on peut noter des trucs. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle me regarde, elle rigole.
Pourquoi tu ris?
Non, parce qu'il me fait rire avec son ping-pong, une sorte de ping-pong.
Voilà, en tout cas, du coup, j'ai un peu désacralisé ce truc-là, même si ça a mis du temps à désacraliser. Et en tout cas, aujourd'hui, je pense que je reste toujours dans cette optique de si je devais travailler pour quelqu'un en tant qu'auteur, ça serait de la même manière. Parce qu'on a rencontré des auteurs aussi. À Quotidien, par exemple, on a travaillé avec d'autres auteurs. Enfin, on en a rencontré un autre, par exemple, qui avait une toute autre méthodologie.
Guillaume Pouget-Dabadie, à qui on fait un gros big up.
Que l'on salue. Guillaume. Et avec laquelle, moi, je pense pas être très, très, très à l'aise. Donc, je commence à capter, en tout cas, que si j'ai envie d'écrire, c'est plutôt de telle manière, avec telle méthodologie.
Bah, sur un site scout, par exemple.
Sur un site scout, en chantant des, en scandant des slogans. Et...
C'est notre première matière, c'est notre amitié. Donc, en fait, le truc, c'est que quand on se fait des délires, parfois, genre, je sais pas, Cédric, il écrit pas du tout. En fait, Cédric, c'est mon Red Bull. Tu vois, ça veut dire. Non, mais c'est vrai. C'est genre, je vais dire un truc.
Cet épisode n'est pas sponsorisé.
Pas sponsorisé par Red Bull. Les boissons énergisantes. C'est. Que je vais dire une blague, et en fait, lui, ça va le faire trop rire, sincèrement, mais du coup, il va continuer la blague, et en fait, ça ne fait que ça, tu vois, c'est que des trucs de, ah, c'est ouais. Trop marrant, parce que, en fait, elle dit ça, et elle dit ça, ouais. Et donc, on n'est pas du tout dans un truc de, voilà, enfin, je sais pas comment expliquer, alors, on partait plutôt des trucs de, ben, je voudrais faire tel perso, ou c'est telle actu,
parce que c'était un peu guidé à Quotidien, par exemple. Oui, il y a tel perso qui est arrivé, on va pas le refaire, du coup. Donc, faut trouver une justification à pourquoi on fait venir tel perso, en fonction, par exemple, d'un sujet aussi qu'on a envie d'amener. Donc, là, par exemple, il y a quelques petites contraintes qu'on devait suivre. Et, mais on arrive à trouver quelques libertés quand même dedans. Mais le mieux, c'est pour le spectacle quand même, où là, il y a vraiment carte blanche de, liberté absolue, et c'est hyper marrant de se dire que des délires qui peuvent naître sur des scooters ou n'importe comment, où on rigole d'une blague de merde, bah en fait ça a pris forme et ça a donné un truc qui marche.
Et c'est ça, trop c'est drôle ça, marrant. Parce que parfois quand on joue et tout, Moi, par exemple, quand j'ai un moment où il y a un diapo dans mon spectacle.
Oh, ce diapo.
Ouais, et ce diapo, c'est des photos qu'on a fait.
On va pas vous spoiler.
Qu'on a fait ensemble à l'endroit où tu sais qu'on l'a fait. Et quand je repense à cette journée, en fait, je me dis, mais c'est trop marrant. Je vois Cédric me prendre en photo. Et des fois, quand j'ai un petit truc de recul, de je me regarde au-dessus, je fais, mais on est vraiment, comme ce que t'as dit avant, en fait, on est vraiment des bons cons, quoi, tu vois. Et franchement, je pense que ce qui nous fait vachement plaisir aussi, c'est de voir que c'est communicatif, parce que en fait c'est trop stylé d'amener de la joie et d'être joyeux, et les gens quand ils nous croisent globalement ils sont hyper joyeux, ils sont hyper contents et ça leur fait plaisir et tout, même si nous c'est pas du tout un enjeu, on n'est pas là pour c'est-à-dire qu'on se dit pas du tout il faut qu'on soit hyper amis pour que cette amitié et tout ça, franchement
Le jour où ça devient comme ça, je crois que c'est
horrible.
Mort.
Non mais parce que là en parlant de ça, je suis en train de me rendre compte qu'effectivement les gens ils projettent beaucoup, tu vois.
Ils projettent quoi?
Bah ils projettent quand même vachement, déjà ils projettent qu'on est en couple la plupart du temps, donc c'est vraiment super dur pour les gens, parce qu'en fait il y a des gens qui pensent qu'on est en couple, et donc j'imagine bien que ça les flingue, parce qu'ils doivent se dire mais pourquoi ces gens-là s'entendent si bien et ont l'air de baiser tant et sont en couple et font un spectacle ensemble, parce que ça met une pression de ouf, tu vois. Je pense de voir souvent, tu sais, tu vois des couples sur Instagram et tout qui évoluent ensemble machin, puis quand c'est fini c'est un peu horrible, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a
Tu penses que les gens
nous on reçoit beaucoup de gens ou de nanas, moi, qui m'écrivent ou qui écrivent à Cédric pour dire putain mais moi j'aimerais trop avoir ça avec mon mec, mais j'aimerais trop être complice comme ça avec mon mec. Et moi je pense que c'est quasiment impossible dans une relation hétérosexuelle normale,
enfin amoureuse, tu veux dire.
Si, amoureuse c'est possible d'être complice, mais pas comme je le suis avec Cédric, tu vois.
Mais c'est trop intéressant. Qu'est-ce qui...
Il y a une espèce de lâcher-prise fraternel qui n'est pas du tout de l'ordre de la séduction et qui, du coup, parfois, quand même, fait qu'on est capable de... il y a quelque chose de moins égotique. Donc, en fait, il y a quelque chose de... on n'a pas de souci à communiquer. Quand il y a une embrouille, elle dure vraiment 30 secondes parce que je lui dis là, tu me fais chier, ça s'arrête là. En couple, pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile de me dire attends, mais il m'a pas écouté comme j'aimerais qu'il m'écoute. Il m'a pas... Il y a quelque chose de l'ordre du narcissisme, c'est vrai, mais qui est quand même assez fort la relation hétérosexuelle et hétéronormée, quoi. Mais.
J'aime bien comment t'as dit ça. La relation hétérosexuelle et hétéronormée, comme si c'était vraiment tout attaché, quoi.
Tout attaché. Tout est un concept. Voilà, on a dit tous les mots pour être contente. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous projettent en tant que couple parfait, genre. Et après, quand on leur dit qu'on est amis, alors là, c'est vrai,
c'est
que
la tristesse, c'est ça.
Non, ils sont là souvent. Il y a un truc de moi aussi, j'ai un meilleur ami et tout.
Ouais, c'est vrai qu'on reçoit aussi des messages comme ça, qui sont hyper mignons, de gens qui disent vous me faites vraiment penser à moi et mon meilleur pote, ou moi et ma meilleure pote.
Mais c'est trop bien, je trouve, de mettre en scène justement une relation amicale entre un mec et une meuf, parce qu'on a toujours ce truc un peu de c'est pas possible, tu vois, ça ne peut pas exister.
Après, c'est possible parce qu'on, vraiment, je pense, parce qu'on n'a pas la même sexualité, c'est vrai, je le pense sincèrement. Je dis pas que c'est impossible d'être ami avec des gens qui sont hétérosexuels, tu vois, je pense pas ça, mais je pense quand même que dans notre société, dans la manière dont c'est construit les rapports entre les hommes et les femmes, c'est quand même, il faut quand même un peu de temps pour désamorcer ce rapport à la séduction au départ, tu vois.
Waouh.
C'est vrai.
Tu crois?
J'en suis persuadée.
Non, ok.
Mais ça m'étonne pas que toi tu le crois pas, vu que tu en aimes.
Mais non, c'est pas ça, c'est qu'en fait j'ai bonnes amies hétéros.
Mais
et je pense
complètement que. Non, mais c'est impossible.
Mais c'est pas la même.
Je dis que le rapport au départ est beaucoup plus. J'aurais peut-être pas eu le même rapport avec Cédric dès le début.
Ok.
Et pourtant, Yet, on n'a pas. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de sexualité avec
Cédric.
Oui, c'est
ça. Non.
C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça. Peut-être que je dis une énorme connerie, mais ce que je veux dire, c'est que quand je t'ai vu, je me suis pas dit il est gay. C'est pas du tout ça que je me suis dit.
Non, bien sûr.
Il y avait quelque chose de l'ordre de la. Il y avait pas aucun
de séduction déjà à notre rencontre.
C'est quand même une mini question, soyons très honnêtes, que tu peux te poser au départ quand tu rencontres quelqu'un. En tout cas, quand tu rencontres quelqu'un qui globalement est dans le sexe inverse, à savoir, moi, je suis attirée par les hommes, donc si je vais lier une amitié avec un gars, ce qui arrive, j'ai plein de potes. Je me serais quand même posé la question à un moment donné. Et c'est vrai qu'avec Cédric, je me la suis pas posée. Pas parce que j'ai présupposé que tu étais gay, mon petit. Parce que je n'étais pas du tout attirée en tout point par toi. Et que tu me dégoûtais irrémédiablement.
Je le regrette encore amèrement. Non, mais construction d'une relation amicale homme-femme.
Homme-femme. C'est vrai qu'elle est quand même homme-femme.
Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a aucun enjeu de séduction entre nous. Et ce qui fait qu'il n'y a aucun problème de... Il n'y a aucune séduction jamais. Donc aucun problème d'ego. Rien à prouver à l'autre. Rien à...
Je ne sais pas comment expliquer, en fait.
Il y a un endroit
je
où on se tient très très bonne compagnie. Puis du coup, après, on apprend... Au début, puis après on apprend à se connaître, et puis après on a envie d'être là pour l'autre, amicalement.
Mais je pense qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que c'est pas possible entre deux hétéros, parce que ça l'est fondamentalement, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'en fait, je pense que pour nous, c'était plus facile au départ parce que on se l'est même pas dit, mais on l'avait conscientisé ce truc-là. Donc ouais. En fait, on n'avait rien à déconstruire en fait. Mmh. Tu vois, c'est ça que je veux dire en fait. Mmh. Et du coup, après ça nous a fait trop bizarre quand les gens ils ont pas arrêté de nous projeter en couple et tout. Nous, franchement, nous on n'a pas.
Les autres nous projetaient en couple tout de suite.
Ah ouais, mais en même temps, bon, bah, voilà, j'allais chez sa famille en Bretagne et tout, c'était aussi un peu ça au départ. Enfin, ouais. Tu vois, il y avait plein de trucs comme ça. Je pense que nos parents nous regardent souvent sous ce prisme-là. Enfin, ouais, c'est con quand même. Hein.
Ouais.
Ah oui, c'est
ouais. Quel dommage. Ouais. Ouais. Alors que tu vas y aller au gaspillage.
C'est marrant, mais comme si on gâchait quelque chose. Ouais. Comme si le but, ce serait quand même qu'on soit en couple. Mais non. C'est pas grave, quoi. C'est oui, très bien aussi ce qu'on a là. C'est ouais, génial.
Ouais. Mais ça, c'est la faute
à... C'est toujours un peu le graal d'avoir une relation amoureuse idyllique, parfaite. C'est le but d'une vie. Et comme si les gens étaient tristes pour nous qu'on n'aille pas jusque-là.
Mais c'est un peu la faute à Disney et aux comédies romantiques,
bah
ça.
Ouais.
Hein.
Ouais. Mais tu vois, nous, quand on s'est rencontrés, c'était il y a 11 ans, en fait. Je pense que ça a vraiment joué.
Parce jeune,
que ce serait peut-être posé des questions, tu vois... Je sais pas, peut-être qu'on se serait rencontrés à l'époque où on aurait été tous les deux hétéros, on aurait peut-être eu un truc à déconstruire en tout cas. Là, c'était pas le cas pour nous, quoi.
Très intéressant. Mmh. Mais ok, c'est trop drôle. Mais ouais, c'est vrai que ça doit les gens doivent vous renvoyer un truc, quoi, sur votre sur cette relation, quoi.
Mais maintenant, je m'en fous un peu. Mais c'est vrai que pendant longtemps, c'était
ça t'énervait un peu, ouais, pendant un temps, toi.
Ouais, beaucoup de gens qui te comment dire. Ils viennent, ils t'envoient un message en te parlant de ta vie privée. Moi, j'ai pas du tout. On n'a jamais dit à une seule seconde. On n'a jamais parlé de notre vie privée en tant que telle, Laura et moi. Et il y a toujours ce truc de ah, vous êtes ensemble, vous êtes trop beau, vous êtes trop mignon, trop truc. Et moi, j'en ai marre qu'on projette des trucs aussi sur. Enfin, laissez-moi tranquille.
Oui, puis c'est des trucs de genre. D'un coup, je mets une vidéo de Cédric et puis tout le monde dit attends, mais vous n'êtes pas en couple.
4, en fait, c'est 5, ça, c'est des réactions de choc.
Tu réponds pas et tout. Et après, je mets une photo de mon mec. Genre, plus tard, je pars dans une story, ce qui est très très rare. Et là, je reçois 70 messages de meufs qui font genre, c'est qui cette beauté fatale? Et moi, je suis en mode, ta gueule, putain. Et du coup, non, mais ce qui est trop drôle, c'est que du coup, tu sais, je sens qu'il y a une sorte de déséquipe totale de, présente-moi ton pote, meuf. Et je suis là, genre, je le suce. Enfin, tu sais. Donc, du coup, c'est vrai que quand on, mais ce qui est en vrai, ce qui est super chiant, c'est les gens qui te posent la question. Comme si pour eux, enfin comme si ça avait vraiment un quelconque intérêt en fait, on en a rien à foutre quoi, tu vois.
Mais je crois que les gens avec les réseaux sociaux ont besoin de projeter des trucs en fait, c'est que ils ont besoin
ouais,
de ça.
Ouais, c'est malheureusement le jeu des réseaux sociaux aussi. Même nous, on se fait avoir à ça aussi.
Bien sûr.
On projette des choses sur des gens qu'on suit, et puis en fait finalement derrière.
Oui, mais ça ne viendrait jamais d'envoyer un DM, faux, tu vois, à quelqu'un pour demander s'il est en couple avec cette personne.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire.
Oui, c'est vrai.
Parce que par d'autres moyens, mais un peu vicieux.
Est-ce que vous connaissez tout Paris?
Ouais. Bien sûr.
Les cancans.
Les cancans parisiens. Mesdames, messieurs, Guy Ballos. Faudrait que t'expliques ça.
Comment t'en es venu En fait, c'est trop intéressant parce que, effectivement, j'ai un peu l'impression que toi, Cédric, t'as toujours voulu être un peu dans l'ombre. Que c'est Laura qui parle beaucoup. Dans cette interview également, je crois que Laura, pour l'instant, squatte 80% du temps de parole.
Ok, à partir de maintenant, vous ne m'entendrez plus.
Mais en fait, c'est trop intéressant de voir que Laura t'a poussé un peu à te mettre dans la lumière, en fait, tu vois, et notamment par rapport à ses stories et tout. Mmh. Je me demandais un petit peu quelle était la dynamique entre vous à ce moment-là. Toi, t'étais plutôt en mode ah non, moi, je préfère pas commencer à faire.
Ouais, je pense que j'ai ah bah elle m'a clairement poussé, elle était dans une mais je pense inconsciemment au début parce que j'avais l'impression que elle ne veut plus parler à présent. Tient son micro très très loin de sa bouche. Non mais en tout cas au début ouais j'ai l'impression que tu le faisais sans réfléchir ou quoi que ce soit, tu me mettais pas mal sur ton Instagram. Mmh. Et puis au bout d'un moment a commencé à se jouer un truc de bah ouais en fait peut-être que c'est marrant de jouer, c'est marrant de faire quelque chose. Évidemment que j'étais déjà comédien à ce moment-là, mais je sais pas pourquoi c'est pas du tout un truc que j'envisageais de faire des choses sur internet, et c'est pas vraiment encore le cas aujourd'hui, mais elle m'a poussé à faire des petits trucs qui m'ont fait réfléchir ouais sur comment
c'est quoi
comment
ton rapport
à ma place ouais
non mais j'allais te dire c'est quoi ton truc par rapport à internet justement parce que tu dis j'avais pas envie
internet
de faire
déjà comme une vieille personne
c'est ça j'avais pas envie de faire
par rapport à Google j'aimerais quand même dire que j'aimerais mon autant qu'on trouve pas des références sur moi parce qu'il y a pas si c'est pour que ça traîne dans les 30 prochaines années. J'ai pas réussi plus de 2 minutes, allez continue.
Non mais tu vois c'est quoi ton rapport à internet parce qu'aujourd'hui si votre salle remplit c'est aussi grâce à internet.
Ouais, ah bah de malade, c'est grâce à
Pourquoi tu fais ça?
Parce qu'elle fait des grands signes.
Parce que c'est pas du tout un calcul en fait. Moi je veux dire au départ,
oui.
Cédric, je trouve que j'aime tellement mes amis quand je les trouve talentueux et tout,
il te fait rire.
Des fois je suis là genre mais j'ai envie de vous mettre au milieu en fait, sous la lumière et tout. Et souvent, en plus, je tombe sur des amis qui aiment pas trop ça. Donc au début, c'est un peu dur, mais je leur dis, mais en même temps, qu'ils aiment quand même un peu ça. Parce que Cédric, c'est quand même un vrai marrant, tu vois. C'est pas le mec le plus discret du monde non plus. Enfin, quand tu regardes des vidéos de lui enfant, tu vois que c'était effectivement le trouble fait, hein, si je peux me permettre.
Mais c'est donc, vrai qu'il y a une différence avec le fait de le foutre sur Insta, tu vois.
C'est-à-dire ouais,
Donc moi, je l'ai pris un peu comme un jeu au début, mais ce qu'il y a, c'est que je me suis pas du tout dit, je commence à exposer mon pote, tu vois.
Bien sûr.
Juste qu'à un moment donné, pour nous, c'est devenu un truc qui nous a amené du travail. Enfin, c'est-à-dire, moi, j'ai bossé chez Quotidien parce que, oui, j'avais fait des trucs, mais pas que parce que j'avais Instagram, mais quand même, ça comptait qu'il y ait des personnages qui continuent à stimuler la créativité des gens qui me voyaient dans les bureaux ou qui se disaient « Ah bah tiens, j'aimerais bien que tu fasses celle-là. » Au final, tu vois, Yann, il pouvait voir un personnage et dire « J'aimerais trop que tu fasses la prof de poterie. Enfin, »
Yann Barthès, tu veux dire.
Oui, Yann Barthès. Donc en fait, ça, ce que ça crée, c'est quand même tout un truc de... En fait, c'est quand même un outil qui est assez formidable pour aujourd'hui pouvoir soi-même être... le propre entrepreneur de sa propre vie, en fait. mais tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, je trouve ça bête de s'en priver. Et aujourd'hui, je trouve qu'il s'en prive encore énormément au vu du talent qu'il a, quoi.
Parce que j'ai du mal à manier l'outil. J'ai vraiment du mal à manier l'outil parce que.
Tellement
parce que je suis une vieille personne qui ne maîtrise pas le réseau social, qui est Instagram. Non, mais parce que j'ai du mal.
Vrai, en plus, t'es un mec de la tech. Tu passes ta vie à faire des mises à jour. Hein, attends,
j'adore les trucs de tech, mais j'avoue que des fois, Instagram, je suis passé 15 minutes à faire une story parce que je suis là, genre, il n'y a rien qui. Bref. Mais c'est pas vraiment ça
qui me bloque. Est-ce que tu baisses un peu les lunettes sur ton nez et que tu regardes comme ça?
Bien sûr.
C'est compliqué. Comment ça marche?
Comment on clique là-dessus? Non, c'est surtout. Le fait de se montrer soi, d'avoir dans un premier temps se dire qu'est-ce que je peux raconter, qu'est-ce que je peux dire, est-ce que j'ai envie de faire un truc drôle ou pas. Je pense que je réfléchis beaucoup trop et aussi j'ai l'image que ça va renvoyer de toi, qu'est-ce que tu vas dire, est-ce que les gens vont aimer, est-ce que les gens vont apprécier. Il y a un truc que je maîtrise encore pas aujourd'hui qui fait que je m'en sers pas de l'outil à 100%. Parce que je reconnais complètement ce que ça peut apporter, parce que je le vois concrètement en travaillant avec Laura maintenant, mais enfin ce que ça lui a apporté. Mais
ça te faisait peur de te mettre sur Internet en particulier ça, parce que tu considères la scène versus, tu vois.
T'es comédien quand même. Ouais, je suis comédien, mais pour moi c'était vraiment différent. Il y avait vraiment une part de alors c'est bizarre ce que je veux dire, mais comme une part de vérité, d'honnêteté pure. C'est-à-dire c'est moi en fait sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est moi. C'est pas un comédien, c'est moi. Même si je joue un truc, c'est moi. Et en fait, je pense que j'ai toujours eu du mal à faire ça, parce que toute ma vie, je me suis un peu caché, quand même. Parce que j'avais une sexualité différente des autres, que j'ai grandi dans un endroit où on n'en parlait pas, dans ma famille, on n'en parlait pas, autour de moi, il n'y avait aucun modèle, il n'y avait rien. J'ai appris à me taire et à me cacher un peu, et je pense que c'est ce que j'ai déconstruit progressivement en venant à Paris, en allant faire ce métier qui, quand même, m'appelait, entre guillemets. Enfin, vraiment, au bout d'un moment, à 19 ans, je me suis dit, mais je peux pas travailler dans un magasin, c'est ça que je veux faire, je veux essayer d'aller, je veux tenter, quoi.
Oui, puis d'aller sous les projecteurs, enfin, je veux dire, c'est...
Ouais, mais du coup, comment arriver sous les projecteurs en se sentant légitime quand on a passé toute sa vie à se dire « Non, mais moi, je suis dans l'ombre et je resterai dans l'ombre et parce que de toute façon, je suis destiné à ça. Parce que on n'est pas prêt à trop à m'ouvrir les portes. » Et du coup, c'est ce que je déconstruis petit à petit. Donc, petit à petit, c'est-à-dire que j'utilise un peu les réseaux sociaux en faisant des petites choses et tout. Mais je pense que c'est en grande partie à cause de ça aussi que j'ai du mal à utiliser le réseau social, parce que le réseau social, c'est des j'aime, c'est des commentaires, c'est de la présence de d'autres gens, c'est du coup entre guillemets des validations. Et moi, j'ai pas en fait, je cherche pas à ce qu'on me valide, mais en fait, parce que je me suis tellement senti
pas, en fait.
Invalidé. Bah ouais, je me suis tellement senti invalidé
en fait,
auparavant. Maintenant,
que tu crées par
moi,
à
je
ça,
me suis validé. C'est bon, je suis très ok avec qui je suis, il y a aucun problème. Et j'ai pas envie maintenant de rentrer dans un mécanisme qui ne parle pas de ma vie privée, enfin de ma sexualité, mais...
Parce que si tu t'en foutais complètement, tu pourrais mettre à distance ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Peut-être qu'en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bah, t'as quand même peur que quelque part on te réinvalide.
Oui,
mais
c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire.
Donc t'en as rien à foutre, tu vois.
Non, c'est-à-dire que moi, je me suis validé en tant que personne, donc j'ai du mal après à aller sur les réseaux sociaux pour remettre en jeu. Parce que c'est comme si je remettais ça en jeu.
Ah oui,
parce que, alors que je suis très bien dans ma vie de tous les jours et que je pourrais effectivement jouer sur scène, jouer, tourner dans quelque chose, dans un film.
Et c'est marrant parce que des fois il fait des trucs, mais il se rend pas compte qu'il fait des trucs qui sont 10 fois plus intimidants En fait, il y a des trucs qu'il fait sur scène qui vont être des trucs, parce que aussi moi je le dirige, Cédric, sur scène. Il y a quand même un truc où parfois, tout comme d'ailleurs il me dirige parfois, mais on a quand même un metteur en scène et tout. Mais moi j'ai tendance à.
C'est Nico Vital.
Nicolas Vital.
Qu'on salue chaleureusement.
Qui vraiment est comment dire. Moi je connais comment il fonctionne, Cédric, donc je sais que. Cédric, tu vas lui dire un truc, il va se passer telle et telle chose en lui avant, tu vois. Mais parfois, tu lui demandes de changer un mini truc. Il a pas envie, il va pas le faire. Mais des fois, il te fait des trucs. Genre là, il fait un moment où il pleure sur scène. Je sais pas si quand t'étais là et qu'il le faisait. Moi, j'oserais jamais faire ça comme il le fait, tu vois. Et lui, ça lui pose aucun problème de dire « Ouais, ce soir, je le rajoute, on va voir. » Tu vas faire quoi ? Et tu vas faire semblant de hurler, de pleurer. Et comment t'oses ? En fait, des fois, il fait des trucs beaucoup plus qu'il le... Moi, qui me mettent beaucoup plus en danger selon ma vision, tu vois, ou en tout cas qui me surprennent. Et il y a d'autres choses qui vont être beaucoup plus difficiles
mais
pour lui.
Je pense que comme
c'est marrant, j'avais jamais fait le lien avec tout ce que tu viens de dire sur.
Mais tu me dirais, fais-le sur Instagram. J'irais grandement à reculons. Peut-être que là, il y a des trucs que j'arrive à faire.
Je sais pas
trop, hein, répondre à cette question. Enfin, à ce truc-là.
Alors qu'en vrai, c'est que j'arrive déjà à le faire. Vrai, là, tu vois.
Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant, depuis qu'on fait ce spectacle, donc on stresse beaucoup moins, parce qu'au début, effectivement, tu te dis, putain, la salle est remplie de gens qui vont te regarder faire un truc, où tu te mets à poil, entre guillemets, et tu joues quelque chose, et ils vont peut-être pas aimer, bref. Je me déconnecte de ça petit à petit, j'arrive à appréhender le public et la scène d'une meilleure manière, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, il y a un truc par rapport aux réseaux sociaux qui n'est pas le même dans la salle, c'est que j'arrive à me dire, bon, il y a 200 personnes dans la salle, ça n'est que 200 personnes, finalement. Oui. Et ils vont sortir, ils vont passer à autre chose. Voilà. Les réseaux sociaux, tu inscris dans le marbre ce que tu fais. Ou au pire, tu peux la retirer, ta publication, si tu l'aimes pas. Mais il y a un truc de, tu peux être vraiment visible par beaucoup de gens. Et si je suis pas sûr de moi, si vraiment il y a un endroit où je suis pas sûr, je tenterai jamais quelque chose.
Tu vois le truc comme un espèce de truc énorme. En fait, la manière dont t'en parles là, par exemple, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je vois, quoi. Moi, je me dis, évidemment, tu fais un peu gaffe maintenant aussi à, quand tu fais une vidéo, tu fais en sorte qu'elle soit quali, t'as pas envie qu'elle soit là, si elle est pas bien et tout, mais. C'est tellement. Enfin, en fait, il y a tellement peu de risques pour moi. Je veux dire, vraiment, les gens, ils publient toutes les 20 minutes. Donc, en fait,
ouais, bien sûr.
Vidéo, plus personne s'en rappelle. Et souvent, je me dis, ouais, et moi, c'est vrai que ce truc de, par exemple, poster et désactiver les commentaires derrière et pas aller les voir pendant un jour, ça me permet aussi de me dire, bon, bah, je suis pas en train de me dire, je suis trop forte, tout le monde a commenté ou je suis horrible, personne n'a commenté. En fait, c'est juste que j'ai l'impression que dans le milieu qu'on fréquente aujourd'hui, c'est un peu incontournable, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu peux. Pour moi, tu peux continuer à garder ta vie privée, à essayer de jouer le jeu, mais et on le voit même maintenant avec des acteurs ou des actrices de cinéma français qui jouent vachement le jeu des réseaux sociaux, mais qui sont quand même, il y a quand même un mystère, tu vois. Mais c'est juste, bah en fait, tu vois défiler Balenciaga, tu montres qui t'a maquillé, qui t'a coiffé, ton potentiel sympathie en fonction de tes interactions avec les autres. En fait, il est important pour le milieu, tu vois. Et c'est quand même un peu un jeu que je trouve intéressant à jouer, quoi.
Et c'est un jeu qui est pas facile quand c'est pas naturel, quand t'as pas envie de base d'aller raconter, d'aller montrer des choses, de jouer effectivement, de montrer ton capital sympathie.
Oui, mais pour moi ça fait un peu du travail, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, bien sûr, mais
c'est pas pour moi. Il y a pas, c'est sûr que c'est pas, t'as plus une nature d'être plus décomplexé, de te montrer ou de te voir ou de te faire face et tout, tu vois. Bien que ça reste parfois difficile et tout, mais
n'oublie pas le micro, Laura.
Ah pardon, mais quand même, t'as peut-être une nature plus facile, mais quand même, je trouve que c'est pas se cacher, parce que j'entends bien ta problématique, mais je trouve que ça fait partie du travail. Et parfois, moi, ce que je ressens dans mon entourage de travail et tout, c'est que bah il y a que moi qui joue le jeu, quoi. Donc en fait, quelque part, quand on me dit oui, bon bah c'est ton spectacle, comment c'est le duo, l'équilibre et tout avec Cédric, je suis aussi un peu en mode bah ouais, mais je bosse vraiment là-dessus. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc. J'essaie de drainer le maximum de gens avec moi, mais c'est sûr qu'on fait pas le même boulot sur les réseaux aujourd'hui que tous les deux, quoi. C'est pas du tout la même chose. Et je suis sûre que tu as tout à y gagner. Je l'aurais dit encore une fois ici, que ce soit gravé dans le marbre sur les réseaux sociaux du podcast.
C'est sûr que c'est un outil qui peut t'ouvrir beaucoup de portes. Ouais, c'est
sûr,
clair,
quoi.
C'est clair.
Rien que par rapport au fait de, tu vois, toi qui adores la musique, de rencontrer des gens qui en font.
Bien sûr, de te rendre visible auprès de certaines personnes à qui t'as envie de travailler, de rencontrer. C'est génial pour ça.
Non, vraiment.
Ça, pour ça, c'est ouf, ouais. Ouais, c'est clair.
Il y a plein de dérives, hein, tu vois. Mais je trouve que c'est Bounaïmin qui dit ça, et je trouve ça aussi intéressant. Il dit, bon, de toute façon, on fait que se plaindre. Il dit, mais qui peut apprendre le piano aujourd'hui sur YouTube en 5 ans, en fait?
Bien sûr.
Il dit, ça n'existait pas avant. Donc, aussi, utilisons l'outil de manière intelligente en nous disant, bah, en fait, tu vois, sur Instagram, c'est toi aussi qui décides à quel compte t'es abonné. Fais-toi un tri. Tu vois, c'est hyper intéressant, quoi, de savoir gérer ça aussi. Parce que
je trouve qu'en fait, le problème actuel, c'est que la technologie, elle est beaucoup plus vite que la prise de conscience, ouais. Tu vois, que la psychologie par rapport à aux outils. C'est-à-dire que juste on est en train de la subir aujourd'hui, je trouve, sur les réseaux sociaux.
Et on en comprend les méfaits.
Enfin, voilà. Plutôt que de se dire, OK, je peux aussi en avoir une utilisation consciente, c'est-à-dire, effectivement, unfollow tous les gens que j'ai pas envie d'avoir dans mon feed, aller suivre que les trucs qui m'apportent et qui me nourrissent. Et je crois qu'en fait, il y a un vrai gros décalage par rapport à ça. Et c'est ça qui fait que les gens sont tous en train
Après, je pense que c'est parce qu'on est vachement sollicité aussi, tu vois, et que les algorithmes font que, bon, bah, c'est compliqué quand tu prends ton Insta de décider combien de temps tu vas y rester, quel contenu tu vas voir, tu vois, on est un peu, mais il faut en être conscient.
Tu peux le décider, mais
si tu veux se dire,
c'est un
piège. Je vais être happé dans ce truc, il faut que j'en sorte
c'est
à tel
piège,
moment. Quoi.
Ouais, tout à fait.
C'est un piège de cristal. Ton piège du cristal.
J'aime beaucoup cet accent belge. Bien le bonjour.
Bien bonjour.
Aujourd'hui, on est avec Laura Felpin et Cédric Salin.
Alors, ça c'est bien.
Ça me fait tellement un gros.
Aujourd'hui, c'est la journée de la gaufre. Savez-vous, c'est vrai. Un lady.
C'est chaud au cœur de vous avoir là dans. Parlons de ce spectacle. Comment. Donc, tu racontais, Laura, que toi, t'étais produite en fait en amont, n'est-ce pas? Et que t'as dit, OK, moi seul, jamais. Moi, je sais pas.
Ça s'est exactement passé comme ça. Non,
moi seul, jamais.
Vous m'aurez...
Le premier seul en scène de Laura Felpin.
Vous devriez faire des voix. Hein. Vous devriez faire des voix, c'est très bien.
Chez Quotidien, on a rencontré... C'est marrant, moi je l'ai fait un peu à l'envers. J'avais ce rêve de scène. J'avais ce rêve de scène et en gros... Quotidien, je savais que ça allait probablement drainer des gens qui seraient intéressés et ça l'a fait avec Thierry Suc et d'autres producteurs que je devais rencontrer, mais j'avais une grande intuition parce que bon, d'une part, il produisait Florence
Foresti.
Thierry
Suc est un immense producteur.
C'est un
pour
immense
les
producteur, mais je le connaissais pas moi à l'époque, je dois le confesser, mais quand j'ai effectivement vu qui produisait, comment ça se passait dans leur bureau, tout ça. J'ai aussi, avant même de le rencontrer lui, ce qui a été l'étape un peu finale, je savais que j'adorerais l'endroit et que je m'y sentirais super bien. Et j'étais aussi, ce qui comptait beaucoup, hein, une artiste en développement chez lui, et il en avait pas. Donc en fait, tu peux te dire, oui, il y a une prise de risque, est-ce qu'ils savent développer les artistes et tout, mais moi, j'avais assez confiance au fait de développer mon spectacle, c'est juste que j'ai l'impression d'être dans une boîte de cadors où genre rien n'est jamais un problème en fait. Ils sont hyper organisés, ils ont les meilleurs régisseurs, ils ont la meilleure enfin c'est un bijou, c'est la Rolls des productions pour moi. Et Thierry, c'est le Rolls
des
producteurs.
C'est comme un truc de Maboule en fait, tu vois, d'être rentré par cette
spectacle
si grande porte quoi.
Ben franchement, c'est on mesure tout le temps la chance qu'on a quoi. Et donc il nous a dit ben allez-y. Écrivez quelque chose. Donc bon après évidemment on savait pas si ça allait leur plaire enfin mais ils nous ont tu vois ils nous ont envoyé en résidence, on leur a demandé si on pouvait aller dans une maison à la campagne tout ça et Cédric a coécrit avec moi le spectacle et moi il était évident que je voulais que Cédric soit dans le spectacle d'une part parce que je suis sincèrement fan de Cédric donc j'avais vraiment envie de le voir dans le spectacle et d'autant plus que je joue quasiment pas avec lui en fait donc j'ai vraiment qu'il ait ses moments aussi tout ça. Et c'est vraiment d'ailleurs la seule raison. Et d'autre part, non, parce que maintenant je me rends compte que c'est la seule raison parce que j'aurais pu le faire pour ne pas être seule, comme tu dis. Mais en fait, j'avais pas du tout mesuré ce que c'était que de partir en tournée, tout ça. Tu vois, là aujourd'hui, je me dis heureusement que t'es avec moi et qu'on s'amuse et que c'est génial. Mais j'aurais jamais pensé avant ça. À la limite, tu l'aurais coécrit et il a même été question pendant longtemps que tu sois pas forcément dedans. Enfin, pas, il était pas question de ça parce que moi, je me disais ça dans ma tête. Mais je veux dire, au début, quand on en a parlé, voilà. Mais en fait, oui, c'est donc t'es arrivé dans l'écriture et c'était important pour moi aussi que ces parties soient des parties qui soient cohérentes avec le spectacle.
Ouais.
On se dise pas, elle a juste foutu son pote, quoi.
Ouais, moi je voulais pas du tout ça non plus. J'ai dit même d'ailleurs à Nicolas quand on a notre metteur en scène quand on a commencé l'exploitation à un moment donné, j'ai eu un peu un truc de panique la troisième semaine, je crois. Je sais pas si je te l'ai dit à Marseille. Je suis sorti, je dis, écoute vraiment, dis-moi, sois sincère avec moi. Est-ce que vraiment ça marche? Est-ce que c'est ok?
Tu m'avais jamais
parce
dit
que
ça.
Moi, j'avais trop peur. J'étais sorti de là, genre, mais c'est parce que tu sais, mes parties, elles étaient compliquées au début du rodage. Mais c'était juste une toute petite. Et il m'a dit, mais oui, bien sûr et tout. Mais Moi, j'avais du mal avec mes parties, j'avais du mal à trouver mon équilibre.
En gros, tu joues un peu le rôle de majordome dans, enfin, tu reprends ce rôle de majordome qui est un peu un fil rouge tout au long du spectacle. Donc...
Ouais, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai trouvé ça marrant, le monsieur loyal.
Ah, yes.
Le monsieur loyal, un peu de Laura, et bah, je trouve ça un peu marrant, ouais.
Ouais.
En tout cas, c'est oui, quelqu'un qui se définit pas trop, il est juste là pour accompagner Laura. Et puis plus le spectacle avance et plus on a l'occasion de le voir à tout petits moments prendre un peu plus de place. Donc il y a un truc intéressant.
Et c'est marrant parce qu'en plus on n'a jamais lié ça, mais c'est ce que tu viens de dire avec tes approches même des réseaux sociaux en fait et ta manière d'être.
Ouais.
C'est-à-dire que on a beaucoup cherché une justification jusqu'à là où maintenant je m'en rends compte quand on s'en parle, c'est qu'en fait la justification c'est que c'est ta personnalité en fait.
Ouais.
C'est qu'au fur et à mesure il te faut du temps, faut qu'on te caresse dans le sens du poil,
faut que
tu sois là,
que tu rigoles. Les gens d'abord, je leur parle, puis après je reviens et puis après je. Ouais.
C'est marrant, j'avais jamais pensé à cette manière de voir les choses, mais en fait c'est. Et donc si ça a été dur tes parties, c'est pas parce qu'elles étaient pas évidentes. C'est parce que pour toi, en tant que comédien, c'était difficile d'être
contre,
sur scène, quoi.
C'était la première fois que j'étais sur scène pour le rodage. La première fois que j'étais sur scène face à des gens et que le quatrième mur était brisé, que je leur parlais. J'avais déjà joué au théâtre, j'avais déjà joué des trucs, mais là, vraiment, je leur parlais, je les regardais dans les yeux et là, je les regardais, et je voyais leur réaction. Et je me disais, waouh, c'est chaud, ça marche pas, ou ça marche, ou enfin, il y a des trucs. C'est.
Enfin, c'est quand même souvent, c'est chaud.
Ça marche pas, c'est chaud. En tout cas, la tournée, ça a été un ascenseur, je sais pas comment, un grand 8 émotionnel, j'allais dire un ascenseur émotionnel. Enfin, si. Mais voilà, tu passes par plein de phases parce que moi j'ai découvert ça. Laura l'avait pas plus ou moins découvert avant parce que t'avais fait quand même quelques scènes ouvertes.
Je disais, ouais, c'est solo. Chaud, ça marche pas.
Ouais, elle revenait me voir et tout. Ou alors j'allais la voir, des fois je l'aidais et tout. Mais ouais, moi je l'ai découvert à ce moment-là. Donc ça a été vraiment. Mais est-ce qu'il faut que je sois Cédric Salin aussi dans cette pièce? Est-ce qu'il faut que je m'adresse comme ça? Ou est-ce qu'il faut que je joue un rôle? On a fait les deux. Ouais. Et quand j'étais Cédric Salin, je me disais, ouah, mais en fait, non, je crois pas que j'ai envie de faire ça parce que d'être vraiment Cédric Salin et de voir que ça marche pas, c'est le pire truc. Au moins, si ça marche pas et que je suis derrière un personnage, je me dis, bon, j'ai pas fait le bon choix. Enfin, bon,
oui,
j'ai mal joué.
Oui, ce qui est marrant, c'est que tu dissocies vachement le personnage de toi. Or, il part quand même vachement de toi.
Ouais.
En fait, ils sont quand même une partie de toi, quoi. Et là, aujourd'hui, quand tu fais ce truc de.
On a mis du temps à le trouver.
Comment le. Et tout, il y a à la fois de toi et à la fois les gens, ils peuvent avoir
et en
ce
même temps,
truc
une distance.
C'est
le fait que je m'amuse avec, parce que je sais que c'est pas vraiment moi non plus.
Ouais.
Mais
il a énormément évolué le spectacle, là, parce que moi, c'est la première fois que je l'ai vu, mais je l'ai vu là, je l'ai pas du tout vu pendant la tournée, vous l'avez vraiment fait bouger.
T'as coupé des trucs.
Le rodage, ça nous a vraiment permis de bosser et tout, et c'est fou parce que. Il y a vraiment ce truc de. Moi, je suis quelqu'un de très. Quand j'écris, je suis là, genre, ok, c'est sûr, c'est ça maintenant. Et le lendemain, on change et je fais, mais comment on a pu être sûr hier que ça, c'était ça? Et ça me fascine toujours de me dire. Et donc là.
Tu veux dire de le mettre après sur scène, enfin de le faire jouer sur scène?
Tu es sûr que c'est bon, tu es sûr que c'est ça. Tu joues une fois, tu es sûr que c'est ça, puis après tu joues deux fois et tu fais, non mais pas du tout en fait. Et puis quand même, Nicolas Vital nous a aidé à faire ce truc au départ de grand tri, que ce soit beaucoup plus simple pour nous et tout. Ensuite, on a beaucoup, beaucoup modifié on a bien modifié quand même en rodage. Arrivé à Paris, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on ait quelque chose de un peu fixe pour qu'on puisse s'installer, ce qui était cool pour nous émotionnellement parce que sinon ça devenait un peu compliqué.
Ouais.
Et là, on se remet à bouger un peu des trucs. Parfois, quand on se sent un petit peu plus à l'aise, on se dit, bah vas-y, cette
pour
semaine,
le plaisir
on est bien.
De tester un
on
petit
essaye
truc
autre chose.
Ouais.
Et là, on a dit qu'on allait repartir en séance d'écriture pour. Pareil, pour repeaufiner certaines parties en se disant, bon, bah là, c'est 3-4 fois que tu dis la même phrase, ça n'a pas l'air clair pour toi. Pourquoi les gens, ils nous parlent jamais de cette partie? Pourquoi ça, ils nous en parlent tout le temps, mais ça, ils nous en parlent jamais? Donc, c'est intéressant de revenir à l'écriture. Mais c'est différentes phases. Je pense qu'il fallait aussi qu'on s'arrête à un moment donné de faire évoluer le truc. Parce que
tout d'un coup, on rentrait dans une exploitation hyper régulière de 3 fois par semaine à Paris.
Au début, c'était
rodage,
beaucoup émotionnellement.
C'est hyper cool.
T'as tous les gens qui viennent te voir. Nous, ça, on n'avait pas mesuré ce truc-là. Mais au début, on s'est dit, ah oui, donc en fait, on va se claquer des foresties dans la salle en mode jeudi soir. Donc maintenant, on veut plus savoir, quoi. Tu vois, on dit, on veut pas savoir qui est là.
Ouais.
Tu vois, sinon, on est.
Il y a Florence Foresti qui est venue vous voir, c'est ça?
Ouais.
À la première, en plus.
C'est fou.
À la première.
On lui avait demandé parce qu'elle voulait même venir à la première technique. Heureusement qu'on n'a pas fait ça.
Ah putain, on a fait une première technique.
Ceci dit, elle est vachement dans le travail, Flo, donc c'est hyper
sympa.
Oui,
puis
elle
est bienveillante. Donc,
elle est hyper bienveillante, elle nous fait des super retours, on lui a demandé aussi, enfin tu vois. Mais c'est sûr que ça met la pression, quoi. T'as des trucs de... Puis même pas, enfin.
Bah, ça met la pression. Alors tu peux le voir aussi comme genre les bonnes fées qui se penchent sur ton berceau, quoi.
C'est exactement ça, mais c'est que t'as pas envie de les décevoir, en fait. Il y a comme un truc de, ouais. Tu te dis ah j'espère que ça va la faire rire. En fait c'est bizarre, c'est pas que tu prends les gens pas comme tes alliés, mais tu te dis j'espère qu'ils vont m'aimer. Et c'est quand même constamment la question du comédien qu'il faut un peu décentraliser.
Ah bon
ouais.
Non pas du tout.
Je pense qu'il faut.
Je veux dire si vous montez sur scène là comme ça devant 200 personnes,
c'est que
vous
êtes validé ou aimé par qui que ce soit.
Non mais du coup il faut trouver dans le fait de se faire aimer par les autres un truc qui te relie à l'autre quoi. Ouais. Sinon c'est mort et tu. Ouais. Tant pis, fais des podcasts. Ça n'a aucun sens. Bien connu ça, les podcasts, que c'est un truc d'égocentré. On va parler de l'histoire de ton succès maintenant, Fab Florent. T'arrêtes.
J'ai déjà fait, écoute-moi, pour l'épisode 100.
Ouais, ok, c'est vrai.
Les gens m'ont demandé, hein, donc j'ai fini par le faire.
Tu t'es auto-confié ou quelqu'un t'a interviewé?
Non, c'est Mimi qui a. Mimi qui est un peu mon Cédric.
D'accord.
Parce que je connais. Alors, sauf que j'ai été son patron, tu vois.
D'accord, ok.
Qui est la rédaction de Mad. Qui
est la rédaction de Mad.
Ouais.
Pour qui tu n'as aucune attirance.
Non.
Sexuel.
Oui. Qui est hétéro et moi je suis hétéro. Okay.
C'est possible. Je retire tout ce que j'ai dit avant. Mais c'est hyper drôle que tu fasses ta propre interview. Bonjour, Fab.
Ouais, grave.
Bonjour.
Non, bonjour. Quel enfant vous étiez?
Bon, je écoute, crois. Ça aurait été super marrant.
La schizophrénie.
Petit déjà, je pose des questions.
Comment ça se passe quand vous engueulez? Ça vous arrive?
Ouais.
C'est pas la plus grosse variante. En fait,
je veux dire par rapport au travail ou de manière générale dans la vie de tous les jours. Enfin, je peux passer des différences, mais
les deux. Hein, il y a des différences.
Moi, j'ai l'impression qu'on s'embrouille plus quand on est quand même sous pression. En fait, c'est la pression.
Ouais.
Dès qu'on est fatigué, qu'on a beaucoup de pression, qu'on voyage beaucoup de ça avec l'autre, la tournée et tout, ça a pu créer des mini trucs d'incompréhension de pourquoi tu parles comme ça, mais quoi, mais qu'est-ce qu'il y a. 20 minutes de dispute grand max, un claquage de porte vite fait de ma part, évidemment, toujours. Cédric il vient qui dit enfin, drama, tu ne peux pas claquer la porte comme ça. Voilà, c'est vraiment ça.
Avec un air très sérieux comme ça. Mais enfin, Laura.
En fait, on se connaît trop. C'est-à-dire que je sais pourquoi. En fait, à la fin des disputes, on a compris l'un et l'autre. Donc, c'est bon. D'accord.
Oui, c'est-à-dire qu'on. Je crois, on arrive à... Bon, s'il y a un truc qui... On s'est fâché, on se le dit tout de suite et on désamorce. Et on en parle. Et effectivement, au bout de 20 minutes, on a compris ce que chacun avait ressenti à ce moment-là. Et on se dit, OK. Parce qu'on a, une capacité d'empathie qui fait que je peux me mettre à ta place, tu peux me mettre à la mienne. Du coup, on se dit, OK, j'ai compris pourquoi tu t'étais fâché. T'as compris pourquoi je m'étais fâché. OK.
Et c'est globalement jamais de ma faute, quand même. Faut le savoir.
Ce qu'elle croit. Ce qu'elle croit, bien sûr.
Ce que tu dis.
Enfin.
Donc non, c'est vrai que c'est pas trop un truc de. Il y a pas d'embrouille de. Je crois pas qu'on se.
Mais c'est vrai que comme ça arrive dans les moments où on est sous pression, fatigué et tout, bah ça arrive avec le boulot. Donc on sait plus. Ben,
ouais bah oui.
On s'est jamais vraiment discuté avant en fait
pour
de travailler
boulot,
ensemble.
Non
bah ouais, c'est depuis qu'on travaille ensemble que du coup on vit des choses émotionnellement plus fortes aussi que d'habitude.
Ouais.
Je pense que ça a dû nous comment dire. Ça nous a fait travailler sur notre relation amicale, de devoir travailler et de vivre tous ces trucs-là en même temps. Bah, ça n'avait rien à voir avec notre relation d'avant, où on se voyait, on chillait en permanence, enfin, où on passait du bon temps, quoi.
C'est n'importe quoi.
Comme des potes, quoi. Et maintenant, on travaille ensemble et on fait plein de choses. Et
mais il y a eu plusieurs étapes qui étaient. Enfin, parce que quand on a travaillé chez Quotidien, au début, on était ultra saucés. Et ensuite, quand ça s'est un petit peu gâté en termes de travail et qu'on n'arrivait plus à trouver les bonnes choses, bah, en fait, ce qui était fou, c'est qu'à ce moment-là, tous les deux, on était très malheureux, on ne se l'est pas du tout dit.
Ouais.
Parce que lui, il était très angoissé pour moi, en fait. Moi, j'allais quand même tout le temps jouer. Donc, en fait, je pouvais pas avoir quelqu'un qui était angoissé pour moi. Mais en même temps, Cédric, qui était d'un coup mon espèce de repère, il était pas tellement parce qu'en fait, lui-même, il était angoissé pour lui. Ouais. Donc, en fait, il y a eu une espèce de boucle que du fait que quand le jour où j'ai dit on arrête, il y a eu un truc de soulagement.
Ouais.
Et c'est vrai que le premier truc que j'ai dit, c'est. Moi, je suis assez comme ça, c'est j'ai dit bon, bah, on va écrire le spectacle. Et il m'a dit non. Et j'ai dit bah si, et il m'a dit non bah non, moi j'ai un peu besoin de temps et tout. Et en fait on en a un peu parlé, on s'est raconté tout ce qu'on s'était pas dit et tout ce qui était rare parce que on se dit quand même beaucoup les choses.
On avait vécu cette deuxième année qui s'était démarrée d'une toute autre manière que la première, qui était beaucoup plus intensive. Petit rouleau compresseur entre guillemets qu'on s'est mangé dans la gueule et effectivement qu'on n'a pas vécu de la même manière et qu'on s'est pas autorisé à se dire plutôt.
Enfin, si, qu'on a vécu un peu de la même manière, mais qu'on s'est pas dit pour pas se paniquer tous les deux, parce qu'en fait, c'était dur pour nous de se dire qu'il fallait qu'on arrête, quoi. Enfin, de se dire, bon, bah, on va quitter un truc qui est quand même génial et tout, quoi. Ouais. Donc, on a vécu un petit peu ce truc-là. Et du coup, ça nous a quand même fait évoluer aussi maintenant dans le travail de se dire quand il y a quelque chose qui nous va pas. Et c'est pour ça que souvent, on a cette discussion de est-ce que t'es OK avec ta position? Enfin, moi, je suis hyper attentive. Puis, tu sais, les gens, ils sont hyper violents. Ils sont toujours en train de questionner la position de Cédric parce que pour les gens, c'est un peu inquiétant que quelqu'un soit dans l'ombre. Donc, il y a toujours un truc de mais quelque part, t'es pas un peu jaloux et tout. Pour moi, c'est hyper violent parce que oui, je suis une petite
C'était ma question finale.
Toujours en revenir à cette méchanceté. Hein,
mais tu sais que j'ai quand même ce truc de je prends beaucoup la place, je parle beaucoup et tout, c'est vrai, mais j'ai un amour incroyable de mes amis.
C'est faux, hein.
Non, mais j'ai un amour incroyable de mes amis. Donc en fait. Enfin, s'il fallait que je donne 40 minutes du spectacle, je le ferais tellement je suis fière de toi. Donc en fait,
t'imagines un peu comme une mère un peu envahissante, quoi.
Oh, c'est marrant, c'est pas du tout ce qu'elle est.
Non, qui fait des câlins un peu trop costauds, tu sais, un peu étouffant.
Vous êtes horrible avec les gens qui parlent.
Mais c'est pas méchant en fait, tu vois. C'est pas méchant.
Une mère envahissante, c'est pas méchant.
Je te jure.
Est-ce qu'on appelle une mère toxique?
Non, j'ai dit un peu étouffante, c'est pas qui aime beaucoup ses enfants, c'est pas forcément toxique.
Du verbe étouffer d'ailleurs, qui engendre en général la mort. Mais ça n'est pas négatif.
Elle est très généreuse à cet endroit-là. Et du coup, pour en revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, comme ce que tu dis, c'est-à-dire quand tu aimes les autres, tu les aimes très très fort. Et effectivement, là. Pour en revenir à tout à l'heure, oui, elle m'a donné cette opportunité d'avoir cette place dans ce spectacle que j'ai fini par saisir. Et puis après, on a discuté des équilibres de chacun. On est très content de ce qui se passe maintenant.
Ah, c'est cool. Mais c'est très marrant parce que je trouve que ça aussi, c'est un truc qu'il faut dire. C'est que quand tu finis par travailler avec quelqu'un de ta famille ou quelqu'un de tes amis, en fait, c'est plus du tout la même relation. Et je crois que tu peux avoir tendance à dire, OK, on va capitaliser sur la relation existante, soit familiale, soit amicale, alors qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Et justement, c'est marrant de voir qu'en fait, toi, t'as paniqué pour elle et vice-versa. Enfin, tu vois, il y a eu un truc un peu compliqué entre vous à ce moment-là.
Sans autoriser, on n'avait pas le temps de se le dire. C'était tellement, ça allait tellement vite, on prenait tellement cher à ce moment-là que il fallait pas, on n'avait pas trop le temps de se poser. Après, je sais qu'on a eu des phases plus tard et tout aussi où tu me disais et on a essayé de faire attention au fait de, ok, on travaille beaucoup ensemble, mais ne faisons pas en sorte que notre relation ça soit que ça du coup que d'être collègues et du coup continuons à nous voir aussi et à passer des moments cool et agréables en dehors du boulot
devant Netflix.
Des moments comme avant devant une petite merde de sur Netflix à manger des Kinder
t'es dur avec la plateforme
je suis un peu dur avec la plateforme mais je dénonce j'aime pas trop la tournure que prend cette plateforme
Love is Blind c'est pas si mal
Love is Blind
alors j'ai pas vu Love is Blind, j'ai juste vu le dernier épisode de Love is Blind qui s'appelle The Reunion. Vous l'avez vu ou pas?
Nope.
Eh bien, c'est fou parce que donc c'est vraiment l'émission c'est ce qui se passe après l'émission. Donc quand tout le monde a vu l'émission, c'est un peu le bilan. Et j'ai trouvé que c'était une heure communication non violente, non-stop, ils s'en sont foutus plein la gueule et tout pendant l'émission. Ouais. Et que là, ils viennent s'excuser, t'en as qui sont toujours en colère, qui viennent exprimer leur colère.
Parce qu'ils se sont vus à l'écran, du coup, avoir des comportements.
Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, ils se sont vus après et ils se sont cachés des trucs pendant l'émission. En gros, Love is Blind, c'est un truc, si j'ai bien compris. J'ai pas tout compris l'émission, mais. C'est... En gros, tu tombes amoureux de quelqu'un sans le voir.
En lui parlant. Dans des maisons, c'est ça?
Ah, exactement.
Séparé par un mur. Okay.
Séparé par un mur. Ouais. Et en fait, la fin, c'est vraiment. Enfin, le dernier épisode, c'est ouf, vraiment. Si t'as pas. Si...
Ah oui, ils sont autour d'une table, ils mangent, non?
Pas autour d'une table, mais ils sont vraiment.
C'est le cercle.
Ah, c'est le cercle.
Ah, c'est le cercle.
The circle.
Ouais. Et le. Non, dans le dernier épisode, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je me suis dit, putain, en fait, télé-réalité done right, quoi. Tu vois, vraiment. Bien foutu.
Okay.
Où ils se sont exprimé leur colère. Il y en a qui se sont excusés. T'as un mec qui s'excuse pas et qui est là, moi, j'en démords pas et tout. Et t'as les autres mecs qui sont en train de dire, non, mais t'es vraiment en train de te comporter comme un connard, là. J'étais là.
Ouais.
Waouh!
Ah ouais, ok.
Amazing. Non, mais vraiment.
Ok.
Notre prochain programme alors.
Après, j'ai pas vu le reste de l'émission. Mais en tout cas, ce dernier épisode-là, je l'ai trouvé.
C'est trop marrant. Il a regardé la fin de l'émission. Il a regardé le conseil du feu dans l'île de la tentation, quoi. Il a pas regardé ce qui s'est passé avant.
C'est
une
référence.
Bon, écoute, il avait l'air vraiment fâché. Donc. Trop cool.
Comment vous envisagez le futur de votre relation, tous les deux?
euh, Eh bien, on se regarde avec des grands yeux sans savoir répondre à cette question. Ben, toujours guidé par le plaisir et
par l'amour, le plaisir.
Et l'humour,
l'amour, ça veut dire que vous êtes en couple. Hein.
Non. Putain,
non, mais c'est marrant parce que parfois on a souvent un truc de. T'imagines notre enfant et tout. Et on se dit, non, mais attends. Enfin, surtout moi. Parce que moi, j'ai un fantasme de créer cette petite être de comédie musicale qui arriverait avec une sorte de petite tête de bao mignonne qui chanterait toute la journée du Disney. Et je pense que ce serait notre enfant. Ça se trouve pas du tout, ce serait un matheux insupportable. Ouais. J'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'on aurait beaucoup trop on mettrait beaucoup trop d'attente sur notre enfant. Il faudrait qu'il soit beaucoup trop génial.
C'est ça.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que s'il correspond pas à ce qu'on attend de lui, ça va être compliqué, quoi. On va être très déçus.
On a des amis qui ont un enfant avec. Avec Cédric et moi, il s'appelle Nesh. On lui dit bonjour, Nesh et Anne-Sophie. J'ai un enfant qui s'appelle Cheyenne, pour continuer dans les prénoms un peu fous.
Waouh.
Et Cheyenne est venue une après-midi chez moi. Et avec Cédric, il pleurait un petit peu. Donc on s'est dit, bon, bah, on va lui faire une petite comédie musicale, quoi. Donc on a commencé à chanter, libérer, délivrer, machin, en mettant les plaids. Enfin, on a fait des capes et des trucs comme ça.
Quel âge a Cheyenne pour savoir?
Cheyenne avait genre 2 mois.
Non,
peut-être, ouais. Petit. En tout cas, Cheyenne nous a regardé. Et vraiment, je pense que c'était le plus beau cadeau du monde pour son père. Mais il s'est endormi au bout de 10 minutes en se disant, waouh, beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop épuisant. Et ouais, je me suis vraiment dit, ouais,
c'est l'a épuisé, quoi.
C'est la traduction de peut-être notre enfant dormirait beaucoup, du coup, je sais pas. En tout cas, non.
Si vous voulez Laura et donc Cédric à vos fêtes d'anniversaire pour vos enfants, vous pouvez envoyer un message
sur Instagram.
C'est vrai, hein. Mais en tout cas, non, bah, je vois ça comme...
Le futur...
J'avoue, j'ai vachement mal. On se pose pas la question.
On sait jamais... Même avant...
Je suis sûre que même si on était loin, parce que je me suis déjà fait des petites phases comme ça... Mais je pense que ce serait génial quand même.
Par contre, c'est vrai que des fois, on se dit, parce que je sais que Laura, moi, je suis toujours globalement resté dans le même quartier à Paris après avoir quitté Alfortville. Et elle,
musicrice, s'il vous plaît.
Pour le coup, elle a beaucoup bougé. Beaucoup bougé. et un jour, je crois que je t'ai dit, genre, non, mais il va pas aussi loin, putain. Et tu m'as fait, bah, pourquoi? Je dis, ben, on va faire comment pour se voir? Elle avait pas du tout capté, elle m'a fait, oh, ah ouais? Il y a eu un truc. Bah ouais, on peut pas mettre 1h15 de transport.
Non, non, mais c'est
voir,
sûr que par contre, je pense qu'on.
Mais du coup, on y. Mais
pour nous, c'est un vrai truc.
Parce que tu vas aussi partir avec Edouard, et moi, peut-être que je rencontrerai quelqu'un. Pour l'instant, je suis célibataire.
On n'est pas du tout prêt.
Ce que je veux dire, c'est que tu vas emménager dans une maison à la campagne.
Attends, t'as dit quoi pour l'instant?
Projet.
Quoi? Pour l'instant, quoi?
Tu vas emménager avec Edouard?
Pour l'instant, tu es.
Célibataire?
Ouais, mais c'est truc d'Instagram, c'est truc ça, là. Et si vous ne savez, je ne serais pas du tout envahissante.
On se dit, bah
juste
oui,
envoyez-moi un CV au préalable. Non, c'est pas
elle vrai. Fait le casting.
En tout cas, Laura a des projets de famille et c'est bien normal avec son chéri que je salue également.
Elle a aussi
mais
des projets de famille pour toi, apparemment.
Pour moi.
Ah bah, il est évident
moi,
que
pas forcément
mon gosse, il sera totalement, ce sera totalement son parrain. Oui. Oui. Bien que pas baptisé, mais en tout cas, tu as la responsabilité de la vie de cette personne également. Non, mais
elle hâte que d'une chose, c'est de faire un enfant pour que tu viennes le garder d'ailleurs. Parce que
non,
elle me dit, mais
de toute façon,
t'auras pas le choix. Elle m'a dit,
contente.
Tu m'appelles, je t'appellerai et tu viendras le garder.
Non, non, non. Parce que moi, j'ai quand même ce truc de. C'est pas si je trop ça.
Tu me dis ça tout le temps. Elle me dit, oh, t'inquiète pas, quand je serai en galère, c'est toi que j'ai appelé. Hein, quand j'ai envie de pioncer.
Parce que je pense. Non, mais parce que je pense même que moi, je me vois bien le garder avec toi souvent aussi. Parce que on sait tellement rien que voilà. Mais non, par contre, ce que je voulais dire, c'est que géographiquement.
Si on habite à 3 heures de distance.
Géographiquement, tu te dis que qu'on va être loin? Parce que ça,
je
c'est
sais
quand
pas
même un peu relou,
de quoi
va être
fait l'avenir, mais je sais que je pense que vous allez partir quand même à un moment donné,
suite,
dans
là,
quelques années
cas.
Peut-être. Et moi, pour l'instant, je suis très bien en ville.
Ça va être trop nul quand on va devenir trop adulte. Et qu'on va devoir faire genre, je peux pas rester parce qu'il y a mon. Mais tu vois, ça c'est quand même un truc aussi de société. Pourquoi tu restes pas dans la même ville? Parce que t'as un pote que t'aimes trop. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, j'écoutais un épisode de Victoire Toyon là sur.
Parce que c'est un mec que t'aimes trop.
Oui, mais. Non, mais je suis d'accord.
Avec lui, t'aspires à un autre quotidien.
Ouais, mais tu peux quand même peser aussi le pour et le contre, tu vois.
Après, la vraie question aussi, c'est pourquoi pas éduquer un enfant en ville, quoi. Tu vois, il y a toujours
aussi,
ce truc
hein,
un peu d'être obligé de quitter la ville, alors que.
Moi, ouais. Ça m'angoisse de plus en plus, les trucs de. Alors, je suis très campagne et je suis, tu sais, quand même un peu campagnarde et tout, mais là, je vois, genre, j'ai un pote qui me racontait l'autre jour qu'il était dans la maison de campagne de sa meuf et tout, et c'est drôle parce qu'en fait, les maisons de campagne, la tante d'Edouard, elle m'a dit un truc incroyable une fois, elle m'a dit. Je lui dis, ouais, on a trop envie, peut-être de se prendre une baraque en Normandie et tout. Elle m'a dit, ne fais pas ça. Mais tu sais, genre, il y avait un truc de pas fort et tout, tu vois. Je dis, qu'est-ce qu'elle, pourquoi? Elle me dit, tu as 30 ans. ne fais pas ça à 30 ans. Et elle me dit, non, mais tu sais, genre, tu as le cinéma, tu as Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Je pense qu'en fait, le vrai luxe, c'est d'avoir un peu les deux. Tu vois, de pouvoir se permettre de se dire, bah, je me barre un week-end là et je coupe un peu parce que c'est vrai que la sollicitation des bruits, des trucs, rien que vivre déjà à Montreuil, c'est différent, tu vois.
Ouais.
Mais du coup,
les gens
c'est
qui
vrai que
pas à Paris se rendent pas compte.
Et surtout quand ça se passe mal, t'es bloqué à la campagne, t'es bloqué à Vélizy. Enfin, je dis Vélizy, c'est pas du tout la campagne.
Vélizy.
Pardon, c'est pour les gens qui connaissent pas la région parisienne.
Je sais pas du tout.
C'était vraiment trois stations de RER de Paris, je pense.
C'est pas très loin.
Ça, pas
mais tu habites alors, je sais pas, je vais te dire.
C'est sûr que ça fait très discussion de Parisien intramuros.
Ouais, alors je vais dire, tu
alors
habites.
Malade.
Alors que désolé.
À Chaïgouze, en Alsace, dans un village de 300 habitants.
Vous êtes des ploucs, n'oublions pas.
T'es content.
On est tous des ploucs.
Non, mais t'es content de vivre à Chaïgouze, dans ta maison que t'as retapée pendant 4 ans et t'as mis des tutos sur Insta. Après, quand t'as fini, il te reste quoi?
Ça, c'est ce que tu me dis beaucoup en ce moment, ouais.
Mais oui, parce que je me dis, mais tu sais, quand tu fais des projets de rénovation.
C'est un baby blues, après.
Qu'est-ce qui se passe après?
Bah, tu fais des enfants.
T'as 30 ans, t'as ta maison.
Grandi, tu refais un enfant.
T'as tes plantes vertes, t'as ton chien, t'as tes enfants, t'as ton mari. Et.
Oui, mais ça, ça fait des années aussi. Ça se fait pas en 3 ans. C'est ça aussi.
Oui, mais quand même, je pense qu'il y a un truc de. Quand t'as 40 ou 50 ans et qu'il t'est arrivé ça, tu fais. Et maintenant. En fait, maintenant, c'est comme avant, en fait. C'est toujours la même chose. C'est la vie, c'est. C'est quand même. Je crois que c'est ma psy qui m'a dit ça il y a pas longtemps et ça m'a stressé depuis.
Bah oui.
Non, mais c'est vrai. Et elle m'a dit un truc trop drôle.
Parce que t'as
dit...
toujours ce truc, je crois, quand t'as.
Tu crois que tu vas arriver quelque part?
C'est ça.
Hein, quand même.
Alors qu'en fait, t'arrives nulle part. Enfin, moi, je me dis, j'ai 44 ans, t'arrives nulle part. Hein.
Putain, t'as 40. Tu fais vraiment pas 44 ans.
Salut, ouais.
Tu t'imaginais quelque part à cet âge-là?
C'est vrai, tu t'imaginais. Tu t'es jamais projeté, toi?
Ah, si, de ouf. Mais moi, j'ai rencontré ma meuf, on avait 17 ans, quoi, tu vois.
Ah ouais?
Ouais, high school lovers et tout, quoi.
Putain.
On est séparés, hein, maintenant, tout à. Hop, upside down de la vie. Mais. Tout a changé.
Tout a bougé, ouais. Ouais, c'est fou, mais tu vois, upside down la vie, le prochain long métrage. Franchement, le gars, upside down la vie, enfin bon.
Mais je crois qu'on projette beaucoup de trucs, tu vois, de dire,
oui.
Ok, 40, 50 ans.
Je veux aller là, je veux.
Mais moi, je me rends compte, c'est que le spectacle. Je me dis, il y a 5 ans, tu m'aurais dit que je fais un spectacle, j'aurais dit, je vais faire un spectacle et tout. Et je m'y attendais et tout. Et après, je dis à Cédric des fois, mais c'est marrant, tu vois, parce qu'on joue. Puis après on rentre chez nous, puis après on dort, et je fais ah bon, bah du coup, ok.
Et demain j'y reviens.
Mais ouais, mais c'est
y a,
super.
Il y a un truc un peu terrifiant, peut-être, de se dire
terrifiant.
L'inverse. Terrifiant, oui. De se dire peut-être l'inverse, de se dire, d'accepter de se laisser porter semaine après semaine parce que la vie va nous offrir.
L'impermanence de la vie, j'ai envie de vous dire.
Voilà, c'est terrifiant. C'est terrifiant, mais moi c'est un peu ce que je fais de manière générale. Mais parce que je ne peux pas faire l'inverse.
Moi, t'es trop fort pour ça, toi. T'es vraiment un petit Bouddha, hein. Qui se balance comme ça dans un petit hamac au soleil. Si je devais te dessiner, je ferais vraiment ça. C'est donc c'est un jouisseur de la vie, Cédric.
Ouais.
Cédric, il a réussi à se mettre au bon endroit où le soleil tape, dans son lit, pour faire une sieste. Il se met un petit bruit de machine à laver et de pluie. Ne me demandez pas pourquoi.
De machine à laver.
Ça lui rappelle sa
oui,
mère.
Oui, j'ai des
charges
quand, mentales. Quand on était petit, ma mère, on était 4 enfants, elle savait pas trop quoi foutre avec moi et le 4e. Et du coup, elle nous mettait devant la. Et je sais pas pourquoi on adorait. Et on prenait nos doudous et on se mettait assis par terre, on regardait le tambour de la machine tourner dans tous les sens et ça nous apaisait. Et ça durait. Ouais. Et ça durait une heure et ma mère était tranquille pendant une heure. Donc les deux autres, je sais pas ce qu'ils foutaient, mais voilà. Et depuis, j'ai gardé ce truc-là, des bruits, un peu de l'eau qui coule, du bain aussi. Et le plus gros truc, quand même, mais il paraît que c'est hyper creepy. Je vous le dis, je l'annonce. C'est le bruit de la, ah non, mais toi, tu sais, c'est le bruit de la tondeuse à gazon. J'adore écouter le bruit d'une tondeuse à gazon. C'est genre,
pourquoi c'est creepy?
Je peux écouter ça?
Est-ce que c'est pas...
Je peux écouter ça pour dormir pendant 3 heures. Et c'est ce que je fais d'ailleurs, quand je suis en plein soleil.
T'arrives chez lui, tu sonnes, et puis d'un coup, tiens, mais c'est bizarre, hein. On est... Qui c'est qui passe la tondeuse? Mais pourquoi il y a une machine à laver en route? Mais enfin, il ne pleut pas. Ah putain, c'est avec ton bruit de sieste.
Et c'est pas des bruits de ville, c'est des bruits justement de maison de campagne. C'est ça qui est marrant. Mmh. C'est ce que je remets chez moi maintenant, adulte.
C'est tellement marrant parce que quand on a dormi une fois ensemble dans une chambre d'hôtel en tournée, on a des chambres séparées. Et t'as mis l'eau de la pluie. Et moi, je me suis dit, génial, ça va m'endormir. Ah, putain, au bout de 20 minutes, j'avais envie de.
De pisser déjà.
Oui, et complètement. Et j'étais là, genre, tiens, chant, merde, il pleut, ça fait beaucoup de bruit quand même. Hein. Et lui, tiens. Je me suis dit, waouh, putain. Donc, t'as vraiment ce truc d'embrasser les choses. Donc, on s'est jamais vraiment posé d'où on allait aller.
Ouais, voilà.
Mais quand même pas trop loin, je crois, moi. Faut pas faire ça.
Non, et puis faut pas projeter parce que.
Parce que ça fait trop peur.
Tu projettes, plus t'es déçu. Parce que quand ça n'arrive pas, tu es déçu. Mais oui, et puis ça fait peur. Et puis c'est ce que je me dis aussi. Et puis c'est ce que ça m'a appris ces dernières années en travaillant avec toi.
Il a pas peur de mourir, Cédric. Il fait wow. Tu sais, c'est comme les médecins traitants. Son père, il est médecin et c'est genre, oh, pff, en Doliprane, c'est vraiment là.
Mon
la
père,
lignée.
Quand. Putain, je pense que j'ai hérité de ça de lui. Oh. Quand on venait le voir et qu'on était petit, mon père est médecin. Donc,
ça reste
donc,
une ablation du foie.
Papa, je crois que je me suis pété le genou. Je crois que j'ai vraiment. On avait très très mal. Vraiment, c'était des douleurs. Des douleurs qu'il n'arrivait pas à entendre. Et il nous disait, oh, prends un Doliprane, ça va passer. Et dans le fond, il finissait toujours par avoir raison, puisqu'au bout d'une semaine de souffrance, ça passait.
C'est quand même un truc de papa de médecin, parce qu'Anna Apter, elle a un papa qui est radiologue, et elle s'est quand même une fois viandée dans les escaliers, elle s'est cassée une côte. Moi, je pense qu'il lui a dit trois jours, prends le Libu, prends le Libuprofène. Jusqu'au moment où il a fait, allez, je fais quand même une radio, le mec est radiologue. Hein. Il a fait, effectivement, c'est brisé, mais on peut rien faire. Donc ça revient au même, mais t'es là genre, ouais, mais c'est chaud, mais j'ai l'impression que les darons, médecins et tout, c'est toujours la même chose, quoi. Ouais. Finalement, c'est les conneries les plus machos aussi.
Les enfants des médecins. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, oui, ne pas trop projeter pour être à l'aise dans le moment présent.
C'est vrai,
ça. C'est ça qui compte le plus. Ouais. Non, parce que ce que j'allais dire, c'est que c'est ça que ça m'a appris ces dernières expériences professionnelles qu'on a eues ensemble. Parce qu'il faut savoir que quand tu choisis aussi les métiers qu'on a choisis, bah, c'est beaucoup de questionnements, rempli d'angoisse. Moi, il y a un moment, j'ai vraiment voulu tout arrêter parce que j'étais, oh, j'y arrivais plus. Laura a compris que c'était sérieux. Elle m'a dit, ah ouais. Bref. Et puis finalement, il s'est passé. Oh, il y a 4 ou 5 ans.
Ok, d'accord.
Et
ah, c'était là, tu parlais. Puis d'un coup, il est venu me dire. Et si je faisais de la gestion tu sais, genre, non mais vraiment un truc,
c'est
tes potes qui veulent aller dans le Vexin et faire des fleurs et tu fais, ouais, vas-y, là, non, t'es vraiment fait pour travailler à Wall Street, donc arrête tout de suite.
Non mais finalement, non, mais genre, après,
et si après, je faisais de la régie, tu vois, le truc le plus ingrat du monde.
Putain, ouais, hyper dur, je voulais faire ça. Mais ouais, mais parce que ça m'intéressait quand même d'évoluer dans ce milieu-là. Mais après, j'y suis revenu. Est-ce que ça m'a appris toutes ces opportunités professionnelles qu'on a eues? C'est de me dire,
il peut se passer plein de trucs.
Il peut se passer plein de trucs qu'on soupçonne pas. Dans un mois, il va peut-être se passer un truc qu'on n'a pas soupçonné et peut-être que.
Oui, comme la mort foudroyante et l'arrêt total de cette existence.
Peut-être, mais ça, si ça arrivera, ça arrivera. Si ça doit arriver, ça arrivera.
Si la faucheuse décide de venir te chercher. C'est ton moment, c'est tout. C'est
et tu sais d'ailleurs que j'ai retrouvé la lettre de mort que j'ai mise à ton nom. Hein, pour
oh
que
putain, ouais, parce que Laura est très obsédée par la mort.
Oui.
elle m'en parle très souvent. Ouais. Elle imagine aussi ce qu'elle souhaiterait à ses funérailles, comment ça se déroule et tout. Et ça fait déjà quelques années que tu m'en parles, mais je ne l'ai jamais vue. Et je sais que tu as rédigé une lettre pour moi au moment où elle
famille,
sera
quoi.
Morte.
Avec mes volontés et tout, c'est pas mal quand même. Mais il faut que je la réédite parce qu'il y a vraiment.
Oui, parce que ça fait quelques années maintenant. Enfin, moi, je ne l'ai jamais lu, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette lettre. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas où elle est, c'est ça le problème.
Ridicule.
C'est qu'il faut que tu me dises aussi où tu la caches, parce que si tu meurs vraiment, je ne pourrais pas la retrouver.
Bah, ça y est, je viens de la retrouver, je te dirai où je l'ai cachée. Mais je vais t'envoyer une copie sur Facebook.
Non, tu sais ce qu'on va faire, tu vas m'envoyer ça sous scellé. Comme ça va rendre un scellé très dramatique. Ouais, tu mets.
Non, parce que je vais changer en fonction des relations que j'ai avec les gens et tout.
C'est pas grave, tu m'enverras une autre 3 ans après.
Bah, faire sous scellé tous les 3 mois.
Comme ça, on l'ouvrira devant un. Comment on appelle ça, un notaire où je peux, pour attester de.
Par contre, je pense qu'on peut conclure par dire que si vraiment toi ou moi on meurt, franchement, ça va être horrible. Par contre, ça va être horrible. Tout va être moins bien tout le temps. Enfin, tu sais, je me disais ça, tout va être. Je sais que tout va être genre tiède, quoi.
Ouais.
Genre,
bah ouais. Ouais.
J'espère que tu meurs pas, vraiment meurs pas, s'il te plaît.
Arrête. Non, mais t'as vu, moi je suis calme. Hein. Tu as l'angoisse. Moi je suis calme. Ouais, on verra. Moi j'y pense pas.
En revanche,
je peux pas connecter avec ça.
Je remarque que Cédric est pas en train de te dire Laura meurt pas.
Mais t'as vu, j'ai exactement pensé ça. T'es sérieux ou quoi?
Non, mais parce que moi je. Non, mais bien sûr, mais meurt pas. Évidemment, on meurt pas. Mais.
Je voulais vous embrouiller, hein, j'ai réussi.
Voilà, putain, bien joué. Tu vas voir qu'elle va m'en reparler après. Enfin, mais t'es sérieux, tu veux pas que je meure en fait?
Franchement, là j'ai la force masculine en face de moi, je réponds plus de rien. Je réponds plus de rien.
Merci à tous les deux. RDV, vous jouez jusque fin avril.
Oui.
À la Comédie de Paris.
Mais surtout, non, RDV au Mathurin à partir du 6 octobre, parce que RDV finit Comédie de Paris, plus de place.
T'as plus de place là?
Non.
C'est complet.
Donc c'est vraiment hyper important de dire aux gens d'aller acheter au Mathurin, puisqu'il faut remplir les Mathurins afin de confirmer un succès.
Vous avez un mois d'avance de remplissage.
Oui, même plus. Ouais. On a commencé quasiment un guichet fermé, c'était génial.
Le succès est total.
C'était fou.
Bon, bah,
Et donc, rendez-vous
à partir du 6 octobre au Théâtre des Mathurins à Paris.
Merci Patrick Sabatier.
Merci à vous. Merci grandement pour cet accueil chaleureux, j'ai envie de dire.
Nous rendons l'antenne directement avec une humoriste qui fait ses débuts dans notre talk show.
Coluche.
Je vous demande d'appeler Madame Sylvie Joly, s'il vous plaît.
Merci à tous les deux.
Merci à toi.
Au revoir.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.